bienvenue dans le podcast Biomécanique. Je suis Jérôme Cazerolle, ostéopathe à Montréal, et dans ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre de sportifs, d'athlètes et de spécialistes de leur domaine. Pour mieux comprendre la mécanique du corps et de l'esprit, pour vous aider à être plus performant au quotidien, et surtout en meilleure santé.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Voilà, c'est bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, non, c'est bon, l'enregistrement est lancé. Et donc, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast. Bonjour Maïlys, bienvenue.
Bonjour, merci. Salut, Tion.
Plaisir donc de faire ce podcast avec toi. En plus, j'ai entendu dire que tu connaissais l'émission, donc c'est toujours plaisant.
Ouais, c'est super intéressant. J'écoute depuis longtemps tes podcasts et toujours très passionnant. Et puis on apprend toujours, je trouve, que ce soit avec des invités qui sont du coup des athlètes ou d'autres qui sont plutôt dans le domaine de la santé en nutrition. Je pense notamment à Marco que tu avais eu il y a pas longtemps. C'est vraiment super intéressant sur tous les points de vue humains comme sur l'apprentissage.
Ok. T'as découvert, tiens, allez, je suis curieux, la première question qui a rien à voir, mais t'as découvert le podcast avec quel épisode?
Alors là, bonne question. Non, parce que c'est ma sœur qui m'en parle depuis un bon bout de temps, qui regarde tes podcasts avant moi. Et elle m'a dit, mais écoute ça. J'ai dit, mais oui, mais il faut que je prenne le temps, etc. Elle m'a dit, mais tu sais qu'en plus, il est ostéo, etc. Donc au final, j'ai découvert ça avec elle, mais je sais plus du tout quel podcast, parce que... Alors là, ouais, bonne question. Mais ils m'ont tous interpellé les uns que les autres. Donc c'était... Cool.
Ok, bon, bah alors, t'as parlé d'ostéo et c'est ce qui m'a fait un petit peu amener vers toi justement. Alors, il y a pas que ça, il y a pas que le côté ostéo, mais j'ai trouvé ça que ça fitait parfaitement avec un bon contenu qu'on pouvait proposer. Donc, l'ostéo, le fitness, le coaching, la santé, enfin tout est mêlé et puis tout sera mêlé. Donc, on va essayer de parler de tout ça, peut-être de ton approche de l'ostéopathie. Ceux qui te connaissent, bon, ils voient que t'as un physique, que tu t'entraînes depuis un moment, que tu fais pas semblant. on va parler de fitness aussi, on va parler de tout ça. L'entraînement, je sais pas si on va forcément rester longtemps sur l'entraînement des femmes, mais il y a quand même quelques petites questions sur la musculation, les femmes, tout ça. Je trouve ça intéressant parce que déjà tout à l'heure, là, on discutait à privé, tu as commencé à me dire qu'il y en a peut-être qui pensent que j'utilise des produits, donc on va essayer de fouiller là-dedans.
ça marche.
Et puis écoute, je vais te laisser te présenter pour démarrer comme d'habitude.
Ok, du coup moi je m'appelle Maïlys, j'ai 24 ans, je suis issue d'une formation initiale en ostéopathie, donc j'ai été diplômée de l'école de Rennes, donc à l'ouest de la France. En fait, l'histoire de l'ostéopathie pour moi elle remonte à vraiment très très longtemps, puisque du coup elle a démarré quand je devais avoir 6 ou 7 ans. Ma maman elle se bloquait souvent le dos, elle avait toujours des douleurs au niveau lombaire. Et elle me disait, Maïlys, tu veux pas me masser, etc. Parce que, comme tous les papas, ils sont un peu brutaux. Et puis, quand ils viennent masser, c'est un peu, c'est pas très délicat. Donc, moi, je venais la masser tranquillement et ça fonctionnait plutôt bien. Il y a des bons résultats. Et puis, au fil des années, ça s'est passé. Et j'ai creusé le sujet. Je me suis dit, Maïlys, il faut que tu comprennes pourquoi est-ce que tu fais du bien et comment est-ce qu'on peut mieux et davantage faire du bien. Parce que là, je fais des choses, entre guillemets, au pif. Et je veux vraiment comprendre le pourquoi du comment. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dirigée vers l'ostéopathie. Au début, c'était un petit peu plus la kinésithérapie. Et mon papa, qui justement allait voir des ostéos, m'a dit « Regarde un petit peu ce que c'est, etc. »
Donc, toi, tu avais expérimenté sur toi-même. Excuse-moi, je te coupe d'entrée, hein, mais c'est les jurons dans le podcast souvent. Je suis obligé de couper parce que j'ai des questions qui me viennent. Et le truc, c'est avant de démarrer les études, ça, c'est quelque chose qu'on m'a pas mal demandé. Est-ce que tu avais déjà consulté toi-même un ostéo? T'avais déjà des douleurs et si t'avais une expérience?
Eh ben jamais, j'avais jamais consulté d'ostéo avant d'arriver dans l'école. J'ai consulté du coup, je pense que ça devait être en terminale, juste avant d'entrer dans l'école. Je me suis dit bon, quand même, Maïs, faut que tu vois comment se passe une consultation, parce que bah forcément, quand tu veux rentrer dans une école, tu fais des recherches un peu sur le métier, sur les études, etc. Donc je savais comment se déroulait une consultation, je savais comment est-ce que tout cela se passait, mais je voulais quand même le ressentir. Et voir ce que ça faisait sur moi, quels étaient les effets, est-ce que je me sentais fatiguée après, est-ce que je me sentais mieux, etc. Savoir quelle était l'approche. Et bah toi, enfin on en discutera un petit peu, je pense après sur l'ostéopathie et différentes techniques. Mais les ostéos, il y a un panel de techniques différentes. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que un ostéo peut faire beaucoup craquer, d'autres qui vont faire pas du tout craquer. Et c'est ça qui est intéressant dans cette pratique-là.
Spoiler, tu fais craquer ou pas toi?
Ouais, je fais craquer. Après, j'ai fait la formation pour les trusts cervicaux. Donc, pour ceux qui connaissent pas les trusts, c'est le craquement. Au niveau des cervicales, je l'ai faite du coup en post-gradué sur ma première année. Je l'ai pratiqué pendant 6 mois, 1 an, je dirais, les trusts cervicaux. Puis au final, je me suis rendu compte que bon, il y avait beaucoup de contraintes quand même au niveau du rachis cervical. Et du coup, au final, je pratique de moins en moins sur le rachis cervical, mais au final, sur tout le corps, je le fais quand il y a besoin et quand le patient est réceptif aussi.
Toujours avec la validation du médecin en amont, hein, bien sûr.
Évidemment.
Ok. Je me disais, tu peux pas ne pas faire craquer. C'est pas possible de s'entraîner comme ça, de développer un physique musclé, musculeux, pour finalement faire des techniques douces. Ça n'aurait pas de sens. Ça, c'est le cliché absolu. Vas-y.
Je disais, j'ai beaucoup de sportifs aussi. Du coup, au final, quand tu les vois en consultation, t'as les judokas qui font 100 kilos. Si tu leur dis, je vais vous faire du tissulaire, ils vont te regarder, ils vont dire, mais non, ça va pas là.
Ouais, non, mais moi j'ai la D4 là qui est bloquée là, il faut me la débloquer.
En général, c'est ça en plus.
Ok, c'est marrant parce que moi non plus, j'ai pas vu d'ostéo avant de commencer mes études.
Ouais.
Enfin, j'ai pas vu. À titre personnel, j'ai pas vu. Évidemment, j'ai déjà accompagné. J'avais vu comment un ostéo travaillait. Évidemment aussi. J'étais renseigné sur la discipline, mais ça c'est un truc, je me souviens, c'était pendant la première année, il y avait beaucoup de profs qui disaient que c'était presque une aberration finalement de pas avoir eu des traitements ostéo sur soi-même avant de démarrer les études. Alors sur le coup, j'étais pas hyper, enfin c'est pas que j'étais pas hyper d'accord, mais je me disais bon, oui bon, allez arrêtez de nous faire chier dans ma tête, hein, je leur disais pas ça, mais je me disais oui bon c'est bon, allez arrêtez de faire chier, blablabla. Parce que je résistais un peu par rapport à ça, évidemment, parce que j'avais pas été personnellement voir des ostéos avant les études. Mais finalement, ça prend du sens. Je sais pas ce que t'en penses.
Mais je suis totalement d'accord avec toi parce que moi, mes professeurs, ils ont exactement le même discours que toi. Je pense que c'était dès les premiers cours, ils nous ont dit qui est-ce qui a vu un ostéo, qui est-ce qui a pas vu d'ostéo. Et je trouve que ça catégorisait beaucoup dès le début. En fait, moi, je me suis dit, mais mince, j'ai pas vu d'ostéo avant. Enfin, ou j'en ai vu qu'un, je me suis dit, je suis nulle. Alors qu'il y en a qui les voient depuis des années, etc. Je me suis dit, mais je vais avoir un retard considérable sur toutes mes études. Je sais pas comment se passe une consultation, etc. Et au final, je me dis, ouais, mais en fait, c'est bien aussi d'un côté parce que du coup, c'est moi qui vais apprendre et c'est moi qui vais, entre guillemets, pouvoir driver ma consultation plus tard et savoir comment est-ce que moi, je veux voir une consultation et pas comment est-ce qu'on me dit de faire une consultation. Et je trouve que c'est super intéressant de ce point de vue-là parce que je pense que, enfin, tu le sais aussi, c'est que tous les ostéos ont une technique et une approche différente de la consultation. Il y en a qui vont quasiment pas faire d'anamnèse et qui vont quasiment tout faire sur la table. Il y en a au contraire qui vont passer 20 minutes à faire une anamnèse. Et au final, c'est ça qui est intéressant dans le métier d'ostéo. C'est que chacun est différent sur sa pratique, sa manière de fonctionner et puis sa consultation. Enfin, je pense, hein, je me trompe peut-être, mais...
Je sens que tu dois écouter le podcast d'Étienne.
Oui, alors de moins en moins, mais parce que j'ai beaucoup moins de temps. C'est pas une question de non volonté, mais ouais, j'essaie beaucoup d'écouter des podcasts, que ce soit les tiens, sur même en anglais, je trouve que c'est intéressant et ouais, j'écoute un petit peu.
Alors, il y en a qu'un seul. J'en ai déjà parlé, j'en reparlerai probablement au fur et à mesure parce que en fonction des invités, forcément, on fait des références. Et le podcast donc d'Étienne Buidon qui est surtout la santé. Ça doit être le seul qui parle de santé, un podcast vraiment dédié à la santé qui est très qualitatif et puisqu'il a des invités. Alors, qui parle de santé, surtout enfin de plus en plus santé alternative complémentaire. Je sais pas comment on peut les appeler, mais c'est médecine parallèle entre guillemets. Alors il a eu des médecins, il a eu des cardiologues, il a eu des dentistes, il a eu des sportifs, etc. Mais c'est vraiment de plus en plus orienté très santé, médecine parallèle, très intéressant, surtout pour les professionnels de santé qui veulent peut-être.
Mais je trouve qu'il est beaucoup plus complexe à écouter parce que du coup il y a des professionnels qui sont vraiment très très qualifiés et c'est vrai que moi quand je les écoute, faut que je les écoute au moins deux fois pour essayer de comprendre et tout assimiler. C'est vraiment pas un podcast où tu l'écoutes comme ça dans la voiture, faut vraiment être concentré et écouter pour apprendre les choses, quoi.
Et c'est vraiment pas ce que j'ai voulu faire de mon côté. Au contraire, j'ai voulu essayer de partir de l'autre, dans l'autre sens. Alors beaucoup moins sur le côté santé et médecine, mais plus sur le côté sport, psychologie aussi du sportif, comment ça fonctionne, et puis plus discussion. Ouais. C'est vrai que donc il y a que lui, tu vois. Je veux dire, si quelqu'un me demande un podcast uniquement sur la santé et les thérapies. Vraiment, lui, c'est le numéro un. Effectivement, il faut un peu. Puis des fois, faut prendre du recul.
Exactement. Oui, parce que, comme tout dans la santé et la nutrition, tout n'est pas vrai. Enfin, tout n'est pas blanc, tout n'est pas rose. Il y a des avis qui divergent, et c'est ça qui est intéressant.
Donc, t'es assez d'accord aujourd'hui pour conseiller, en tout cas, aux jeunes ostéos. Alors, je rassure tout le monde là. On parle d'ostéo, on parle un peu de santé, évidemment. Mais c'est, vous inquiétez pas, ça va parler muscles, ça va parler gros bras après. Tu conseilles par exemple à ceux qui veulent essayer de se lancer dans un cursus d'ostéopathie ou même une autre, je sais pas moi, une autre thérapie manuelle ou quoi, d'expérimenter. Est-ce que t'es passé maintenant du côté des profs pour dire oui il faut? Absolument.
Pas forcément. J'ai envie de dire, il faut au moins voir comment se passe une consultation. Soit t'accompagnes ta maman, ton papa ou un ami, juste pour voir comment se passe une consultation, ou alors tout simplement tu demandes à un ostéo qui est du coin si c'est possible de faire juste un stage d'une demi-journée, voir comment ça se passe. Moi, je l'impose pas, dans le sens où je préfère que la personne puisse faire ses propres choix, parce qu'on n'a pas à donner des ordres à qui que ce soit. Je pense que ça peut être un plus, mais c'est pas obligatoire. Moi, tu vois, j'avais fait qu'une seule consultation avant de venir en école. Et ça m'a suffi, et c'est ce qui m'a permis, je pense aussi, d'être un petit peu plus autonome sur mes consultations maintenant.
Fais-tu partie de ces cordonniers qui sont mal chaussés ?
De plus en plus, de plus en plus, parce que tu dis bon, comme tu sais un petit peu tes mots, tu te fais ton propre diagnostic et tu dis bon, ça va, franchement, c'est juste ça, ça peut passer, on se laisse 2-3 jours, et puis tu dis bon, c'est dans la tête aussi, t'as un peu mal, basta, et puis ça passe, quoi. Et c'est pas bien, c'est pas bien. Mais bon, vas-y.
Non, mais parce que t'as raison. Moi, je suis pareil, je consulte très rarement. Après, alors j'ai un trick pour ça. J'ai une technique. À chaque fois qu'on me demande, tu consultes un ostéo toi-même ou tu devrais consulter, tu devrais t'occuper de toi aussi. J'ai la solution ultime. C'est en réalité, c'est une réponse à la con parce que ça serait toujours intéressant d'aller avoir l'avis de quelqu'un d'autre sur toi-même et puis de faire aussi de la prévention, de faire des bilans.
Ouais.
Mais c'est de dire, en fait, je m'occupe bien de moi déjà. Je fais du sport, je mange correctement, j'ai pas trop de douleurs, je fais attention à ma posture, etc. Et en fait, tu t'expliques tranquillement que non, mais c'est de la thérapie un peu au jour le jour, donc j'ai pas besoin d'aller voir quelqu'un. Ça, c'est le truc.
C'est ça.
Mais ce qui est pas faux, parce que on a tendance à penser que les ostéos, d'une manière générale, sont hyper conscients d'eux-mêmes, ou en tout cas font bien les choses. L'avantage de s'entraîner un petit peu, d'être intéressé par tout ce qui est fitness, musculation d'une certaine part, nutrition, c'est qu'au final, c'est quand même tu fais un peu de thérapie au jour le jour. Les ostéos le font pas, ça.
Ouais, oui, tout à fait. Ouais, ouais, mais après, je vais rebondir un petit peu sur ce que tu dis aussi, c'est que, alors je sais pas si ils te l'ont dit pendant tes études, mais nous, pendant les 5 ans d'études, tous mes professeurs m'ont répété, vous allez mettre 5 ans à devenir ostéo et vous allez mettre 5 ans à vous en remettre. Et c'est une phrase qui m'est toujours restée dans la tête et je le ressens encore aujourd'hui au niveau de mon corps. C'est-à-dire que, pour les personnes qui n'ont pas fait d'études d'ostéo, pouvez pas le deviner, mais nous, en fait, toutes les techniques qu'on fait sur les patients, on les a testées des centaines de fois sur soi, répétition à répétition. Et sauf que ces techniques-là, elles sont censées être indiquées pour un dysfonctionnement du corps qu'on n'a pas forcément. Donc nous, on vient traiter quelque chose qui va peut-être bien. Et en fait, on travaille dessus. Et au final, bah, tu vois, avant de démarrer mes études, je ne craquais absolument pas sur n'importe quelle articulation du corps. Et maintenant, je suis une vraie cracotte. C'est horrible. Je craque de partout et j'ai besoin toujours de manipuler les choses. Et c'est vrai que c'est pour ça que je consulte une fois par an. Là, c'est sûr et certain, tous les ans, je vais voir l'ostéo pour justement remettre les articulations parce que, en fait, le souci, c'est que quand on craque une articulation soi-même, on craque la mauvaise articulation en général, celle qui va bien, celle qui est en dessous, celle qui est au-dessus. Et du coup, au final, on va pas sur le centre du problème. Et du coup, c'est pour ça que je consulte une fois par an pour me dire... Bon, au moins, ça a été remis bien cette fois-ci. Et puis, voilà. Mais ouais, la phrase, on met 5 ans pour être ostéo et puis on met 5 ans pour s'en remettre, elle m'est restée dans la tête, celle-là.
Et c'est marrant ce que tu dis, tu craques de plus en plus alors qu'avant que tu craquais pas. Et parmi les patients, on voit vraiment ceux qui ont la facilité à, il suffit juste de mettre une légère tension et puis ils ont tout qui pop dans les vertèbres. Et puis certains, même avec la meilleure tension du monde, avec le bon geste, le bon trust, il y a rien qui se passe. Toi, t'as évolué, quoi.
Je craquais un petit peu, mais pas non plus énormément. Mais maintenant, quand je fais des rotations thoraciques comme ça, honnêtement, il y en a 5 ou 6 qui passent, quoi. C'est une catastrophe. Et c'est un besoin, tu vois. Je ressens qu'au bout d'un moment, quand, par exemple, je reste assise trop longtemps, je sens que ça commence à venir se bloquer. Et le fait de venir craquer, manipuler, ça me soulage. Donc voilà.
Mais c'est... Okay. Maïlis la cracotte. Bon, très bien.
Je m'appelle comme ça, ouais.
Ou tu croustilles aussi, c'est référence à quelqu'un qui écoutera le podcast, voilà, qui dit des fois je croustille.
C'est très belle.
Alors, t'as une page Insta. Ouais, bah oui, c'est une belle image, c'est mignon. C'est chou, on va dire. T'as un compte Instagram assez important. Je t'ai fait une toute petite référence quand on discutait en privé là avant qu'on démarre l'enregistrement, c'est que t'as un joli compte. Tu poses beaucoup de recettes, de choses qui donnent envie forcément, et pas forcément caloriques, hein, si je crois.
J'essaie de faire du fait maison. J'essaie d'alléger les recettes sans forcément bannir certains aliments. Le but, c'est de se faire plaisir sans se dire ça c'est pas bien, ça c'est bien.
Ouais. Ce qui est pas une mauvaise chose, on va y revenir peut-être. Mais là où je voulais en venir surtout, c'est que alors tu poses quelques photos de toi aussi, de tes entraînements. Alors pas tant de tes entraînements. Je crois que j'ai pas eu d'entraînement. C'est surtout des photos où tu montres un peu.
Je les mets en story mes entraînements.
Ok, c'est vrai que j'ai une sale habitude où je regarde très peu les stories. une très bonne habitude d'ailleurs.
Ouais, ça prend du temps.
Ouais, c'est quand ça m'arrive d'enchaîner les stories, je me dis putain, je passais 10 minutes à regarder quelqu'un me raconter des trucs, j'aurais été tellement plus fortueuse. Et alors je te disais, il y a très peu de photos ou de contenu sur l'ostéo. Ton compte, il est vachement axé sur fitness, musculation. Quand je dis fitness, parce que j'essaie de taper large, mais on est sur la musculation quand même, musculation, nutrition, parce que t'as quand même un physique. T'as quand même un sacré physique pour une fille, on peut se le dire quand même.
C'est gentil, merci.
Donc tu partages, mais tu partages pas des conseils ostéo, tout ça. Et alors je voulais creuser, savoir pourquoi t'avais pas voulu vraiment faire ce mash-up qui aurait pu être hyper intéressant.
Écoute, j'avais commencé, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que j'avais commencé à lancer un autre compte Instagram où j'avais essayé de mettre un petit peu des phrases que me sortaient les patients qui étaient plutôt drôles. Et au final, ça me prenait beaucoup de temps. Donc, ce que j'avais fait pendant un certain temps, c'est que sous mes posts fitness, je mettais des petits tips ostéo. Par exemple, à quoi ça sert le K-tape, comment est-ce que se déroule une consultation, pourquoi est-ce que c'est bien d'aller consulter un ostéo, etc. En fait, ma communauté est très axée fitness. Et j'ai l'impression que ça les touche un petit peu moins, tous les conseils ostéo. Donc c'est peut-être une erreur de ma part et que j'ai pas. Enfin, je pense que si j'avais lancé plus le truc, les gens auraient été plus réceptifs. Mais comme dès le départ, il n'y a pas eu forcément de feedback et comme ça me prend du temps, parce que forcément développer un sujet d'ostéo, ça prend du temps. Ça s'invente pas et ça s'écrit avec des mots précis. Donc ça me prenait beaucoup de temps et puis les gens n'étaient pas forcément réceptifs. Du coup, je m'étais dit bon bah Maëlys, laisse ça de côté. La rigueur, quand ça devra venir, ça viendra. Et puis laisse-toi le temps de la réflexion sur le sujet. Mais c'est vrai que Bah, peut-être que je le montre pas beaucoup sur mon compte Instagram en visuel, mais j'ai beaucoup de questions en DM. Ouais, c'est ça. Des gens qui viennent me dire, oh, Maëlys, regarde, j'ai ma radio là, qu'est-ce que t'en penses? Ou, j'ai une tendinite d'Achille, qu'est-ce que tu conseilles, etc.
Donc,
ouais, c'est très lourd parce que, bah, moi, ce que je leur réponds en général, en plus, c'est, bah, je suis désolée, mais je fais pas de diagnostic à distance. Tout comme, bah, je pense, enfin, j'ai pas de référence, mais c'est notre métier, donc ça demande aussi, t'es payé normalement pour ça, donc.
Oui, bien sûr.
Donc je peux donner des conseils, je donne des conseils globaux, un petit peu comme du fitness aussi, mais je peux pas dire, bah écoute, viens, on va faire une consultation, je vais te prendre ta tension à distance, on va voir ça, tout ça, donc non, c'est pas possible. Et puis sinon, je passerai mes journées à faire des diagnostics sur le réseau, quoi, c'est pas possible.
Ouais, c'était Paul Mathieu, le doc, qui était passé il y a quelques semaines sur le podcast, qui disait aussi qu'il recevait. Alors lui, comme il s'était présenté sur YouTube, je sais pas si tu vois qui c'est Paul Mathieu.
Si, ouais, tout à fait. Ouais.
Le doc, anciennement sur Cher Fitness, qui fait pas mal de vidéos donc sur la santé, le santé sport. Alors lui, il est sur YouTube, très très bonne chaîne aussi. Hein, où il explique des pathologies en lien avec souvent, il essaie de faire des liens avec le bodybuilding ou le monde du sport. Et forcément, ça lui arrive souvent de parler de stéroïdes, et surtout pour d'ailleurs les effets secondaires. Ou enfin, tu sais, il est médecin, donc il s'y connaît. Puis comme il adore la musculation et bodybuilding, eh ben voilà, il y a un truc.
Ouais.
Et alors, il y a beaucoup de messages qu'il reçoit de personnes qui lui demandent des conseils sur les trucs. Et en fait, non, c'est pas possible. Tu peux pas répondre. Tu peux pas répondre. Lui il peut pas. J'invite tous ceux qui n'ont pas écouté son épisode d'aller écouter ce passage-là où on parle de ça avec lui. C'est pour voilà. C'est comme tu dis.
Bah, en fait, son métier, c'est d'être cardiologue. C'est pas de donner des conseils sur des diagnostics en DM. Après, un truc que je trouve génial, et je voulais rebondir là sur les stéroïdes, c'est que en France, en fait, le souci, c'est que par exemple, tu vois, aux États-Unis, tout le monde est dopé. Enfin, on va dire 80-90% des gens sont dopés. C'est bête à dire, mais c'est vrai. Et en France, en fait, il y a beaucoup de soucis de santé. Je sais pas comment ça se passe exactement au Canada, mais en fait, les stéroïdes en France, c'est encore beaucoup tabou. Et du coup, personne n'en parle, alors que je pense que si on en parlait plus, les gens seraient plus informés sur le sujet et il y aurait moins de décès. Je te prends un exemple tout bête. Il y a un an et demi, il y a un gamin de 20 ans dans ma salle de sport qui a pris des stéroïdes et qui est mort. Tu vois? Et en fait, ça m'embête parce que je suis sûre que s'il avait été informé sur le sujet, s'il avait été informé sur les risques de la consommation des stéroïdes, eh ben, il n'y aurait pas eu ces soucis-là. Et c'est vraiment le souci du tabou des stéroïdes en France qui fait de la malinformation du sujet et que du coup, c'est utilisé soit outrance, soit mal utilisé. Enfin, je sais pas ce que t'en penses sur le sujet, mais...
Moi, j'avoue que j'ai une opinion qui ne cesse d'évoluer. Je suis peut-être influencé par ce que j'entends à gauche, à droite. Je pense forcément à la chaîne de Rob, The Rob,
ouais.
que tu connais. Voilà,
tout à fait.
Parle de stéroïdes depuis longtemps, enfin depuis un moment. Il s'en est fait son cheval de bataille. J'ai fait un épisode avec lui, donc je veux dire, je lui ai posé mes questions aussi et je suis d'accord dans un sens, le fait d'en parler, de montrer ce qui se passe réellement, ça éveille. Mm-hmm. Et d'un autre côté, c'est vrai que certains propos ne servent pas le sujet. Et puis là, je repense encore à Paul Mathieu avec qui j'ai fait l'épisode, où on en parlait un tout petit peu, que lui me partageait son sentiment aussi, c'est que des fois, certains témoignages qu'il a pu avoir sur sa chaîne, ou certaines, en fait, ça dépend ce qu'on dit, ça dépend ce qu'on veut faire passer. Parce que en parler des effets secondaires, des effets indésirables, des risques pour la santé, c'est hyper important. Mais il y aura pas que ça. Il y aura aussi les côtés positifs. Il y a les gens, ils vont te présenter les côtés positifs et sur certaines vidéos, certains témoignages sur
tout.
La chaîne d'Europe, et des côtés positifs. Et je sais pas dans quelle mesure des fois ça dissuade ou des fois ça renforce l'envie de le tester. Tu vois.
Bah, c'est un peu comme les avis négatifs ou les avis sur TripAdvisor, tu vois. T'as des avis qui sont positifs, des avis qui sont négatifs, et l'idée c'est d'aller tester le restaurant pour pouvoir se faire son propre avis. Je dis pas qu'il faut se doper,
ouais,
bien évidemment,
oui, voilà, mais c'est que
je pense que comme il y a beaucoup de gens qui sont dopés et qui n'en parlent pas, et d'autres qui sont dopés et qui sont contents ou qui sont pas contents, le souci c'est qu'on a plein d'informations, on sait pas lesquelles sont les bonnes. Et c'est ça le souci, je trouve. C'est que, bah, je veux pas dire qu'il faut l'apprendre à l'école, tu vois, mais au moins si on fait des formations en nutrition, dans les formations pour devenir prof de sport, avoir tout un tableau en nous disant ça sert à ça, il y a tel effet secondaire, vous pouvez en prendre, si vous en prenez, vous avez ça, etc. Et l'idée, c'est d'informer simplement sans forcément dire c'est bien, c'est pas bien, parce que moi je suis ni pour ni contre les stéroïdes, c'est un avis et un choix personnel, mais juste avoir l'information du sujet. C'est-à-dire que tu sais, t'as conscience de ce que tu prends, et tu en connais les conséquences. C'est plutôt ça que je veux dire. C'est-à-dire que tu fais le choix que tu veux. Il y en a qui le veulent parce qu'ils veulent avoir un physique ou ils veulent atteindre de certaines performances, et c'est totalement justifié et justifiable. Simplement, dites pas c'est génial sans vous-même en connaître les conséquences.
Tu en parles un petit peu, toi, de ton côté, sur tes réseaux?
C'est pas sur les réseaux, parce que ça reste encore très tabou, tu vois. Et du coup, ouais, j'en parle pas sur les réseaux, j'en parle beaucoup avec mes amis, parce que, y en a qui sont dopés et puis qui s'en cachent pas. Moi, ce qui m'embête simplement aussi dans le dopage en France, c'est que, y en a, ça se voit qu'ils sont dopés et ils disent pas se doper. Et en fait, moi, j'ai vraiment un souci avec l'honnêteté. C'est-à-dire que j'ai vraiment besoin que les gens qui sont en face de moi soient honnêtes avec moi-même. Comme je te disais juste avant, je m'en fiche que la personne soit dopée ou non, parce que c'est un choix qui est personnel et chaque choix est propre à soi. Mais juste une question d'honnêteté sur le fait de se dire « je suis dopée, oui », et pas... En fait, le souci, c'est qu'avec les réseaux, on a accès à beaucoup d'informations. Et quand on voit des personnes qui ont des physiques impressionnant, on se dit c'est pas possible, je peux y arriver, elle est pas dopée donc je peux y arriver, or ces personnes là sont dopées et elles ne le disent pas, et du coup c'est de la mauvaise information, tu vois ce que je veux dire? Et en fait c'est ça qui m'embête, c'est que la malhonnêteté des personnes fait que du coup des personnes qui idolâtrent certaines autres et qui du coup je me perds un petit peu dans mes propos, mais mais tu vois ce que je veux dire?
Je vois ce que tu veux dire, je pense qu'on voit très bien ce que tu veux expliquer. Est-ce que tu parles du fitness, de la musculation en général, ou tu penses à plutôt du côté féminin? Parce que j'ai parlé sur ce podcast, c'est un sujet qui revient forcément, les stéroïdes, forcément le dopage, etc. Et c'est souvent du côté masculin, parce que j'en ai parlé plus avec des gars, beaucoup moins chez les filles, j'en ai pas parlé. Est-ce que toi, tu es sensible à ce sujet-là du côté féminin plutôt, ou pas? Ou c'est vraiment t'englobe tout le monde?
Moi, j'englobe tout le monde, parce que pour moi, de toute façon, les stéroïdes ont un effet sur les hommes comme sur les femmes. Après, c'est vrai que chez la femme, c'est un peu plus compliqué, parce que en plus des stéroïdes, il y en a beaucoup qui prennent des moyens de contraception aux hormones, et du coup, au final, ça fait des petits cocktails qui sont pas forcément sympas. Je t'avoue que je suis pas à 100% informée sur le sujet, parce que c'est pas un domaine qui m'intéresse vraiment énormément. Je connais juste les grandes lignes et je me suis pas renseignée sur le sujet plus que ça. Donc je pourrais pas dire exactement quels peuvent être les effets des moyens de contraception aux hormones avec les stéroïdes. Mais bon, je pense que tu t'en doutes aussi, c'est de faire un bon cocktail pas très sympathique, quoi. Donc j'englobe tout le monde et puis ouais.
T'as des femmes en tête là, des fitness girls françaises que tu penses, tu te dis elles, ça sent pas l'honnêteté, sans donner de nom, hein, c'est juste pour
ouais il y en a ouais, et puis il y en a qui je donnerai pas de nom mais qui vendent un physique avec des programmes et qui à côté disent que elles ont ce physique là avec leur programme, or on sait très bien que c'est impossible, et ça aussi ça m'embête, tu vois. Parce que du coup, moi, je récupère aussi des élèves en coaching qui me disent « je veux ce physique-là ». Et en fait, je leur dis « mais non, c'est impossible, là, elle te ment, elle n'utilise pas ses programmes pour avoir ce physique-là. C'est impossible d'avoir un fessier galbé comme celui de, je sais pas, de Kim Kardashian avec juste des programmes maison, tu vois, c'est impossible. » Donc, c'est le souci de la mauvaise information, je trouve, sur les réseaux de plus en plus.
Ouais, on donnera pas de nom évidemment. C'est qui?
Non.
Tu parles de qui?
Non, après j'aurai des soucis.
Non, mais oui, je sais, ça fait Je suis curieux. Tout le monde est curieux. Tout le monde a envie de savoir derrière les
auditeurs. En plus, voilà. je suis sûr. C'est ça.
On dira rien. Tu ne diras rien. Je ne sais même pas de qui tu parles. On n'a même pas discuté. Je ne sais pas.
Promis.
Tu récupères beaucoup comme ça des élèves. Tu me dis qu'il y en a quelques-uns, mais est-ce que tu es obligé de faire de l'éducation des élèves t'as que des filles, j'imagine. T'as pas de
non, j'ai des garçons. J'ai des garçons. Ouais.
Oui, d'accord. Pardon.
Okay. Ouais. Ouais, j'en récupère beaucoup, un petit peu moins ces temps-ci. Donc depuis 2-3 mois, j'en récupère moins, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de soucis. Et bon, pareil, je citerai pas de nom, mais de coachs qui descendent les personnes sur des totaux caloriques très très bas, et puis je les récupère, elles sont fatiguées, beaucoup de soucis hormonaux, beaucoup de soucis de fatigue au niveau des fanères, donc ongles, cheveux, etc. C'est une catastrophe, l'humeur qui est très fluctuante, etc. Donc en fait, c'est...
À force de remanger, tu veux dire?
Ouais, c'est ça, ouais. Bah, quand t'as un total calorique qui est très bas pendant un certain temps, bah, au final, tout ton corps, il se met au ralenti. Et le souci, c'est qu'après, moi, je récupère des élèves qui me disent « je mange une feuille de salade et je grossis ». Bah oui, ton corps s'est mis en mode réserve, en mode alerte. Et du coup, au final, avec un rien, elles prennent du poids. Et il faut leur expliquer que, bah oui, il faut apprendre à remanger pour refaire fonctionner le métabolisme et pour relancer la machine, tout simplement. Donc, ouais, il y a eu beaucoup de soucis avec pas mal de coachs. Je citerai pas les noms, évidemment, mais c'est vrai que bah c'est le souci. C'est que bah forcément, ça fait vendre. Quand tu prends une personne lambda qui mange, imaginons, 2000 calories, bah pour faire vendre et pour que les résultats soient le plus rapidement possible, tu descends les calories plus bas, tu lui dis, écoute, à partir de demain, tu manges 1200 calories, elle va perdre 3 kilos en une semaine, ça va être bien. Tu vois, toi, ça va te faire vendre parce que du coup, ton programme marche. Mais derrière, en fait, tu joues avec la santé de quelqu'un. Et c'est ça qui m'embête. C'est que moi, dans mes coachings, tu vois, je mets un pied d'honneur, et je sais pas s'il y a des élèves à moi qui écouteront cette story-là, mais c'est la santé et l'humain avant tout. S'il y a pas de résultat, bah, peu importe, j'ai pas envie de mettre la santé des personnes en jeu, et je pense que c'est aussi mon côté ostéo qui ressort dans cette approche-là, c'est que je mets l'humain avant les résultats et avant le fait de vendre, parce que, bah, pour moi, c'est pas du marketing, le coaching. Certes, ça l'est, mais de mon côté à moi, c'est pas du marketing. Moi, je suis là pour aider les gens, je suis pas là pour leur vendre et leur voler leur argent. Et chose que, enfin, c'est l'industrie du fitness en France, c'est-à-dire que pour vendre, il faut avoir des résultats rapides, et du coup, ils mettent la santé des personnes en jeu. Et voilà.
Qui c'est que t'apprécies dans le milieu? Tu vois, je suis malin, hein, parce que je te pose pas la question de qui c'est qui raconte des conneries et qui est pas honnête. Non, je veux juste savoir qui c'est que t'apprécies dans le milieu du fitness, que ce soit homme ou femme, qui c'est que t'as suivi peut-être au début et que tu respectes, tu trouves honnête et cohérent.
Ah, honnête, parce qu'il y en a que j'ai suivi au début que je trouve plus honnête maintenant.
Cela, c'est pas la peine de le dire.
Honnêtement, la référence pour moi dans le terme du fitness, c'est un Canadien, c'est Jeff Nippard. Je sais pas si tu connais.
Ben, je connais, et alors je connais pas bien. Parce que... alors je rigole malgré moi, parce que les premières fois où je l'ai vu, je me suis dit putain, lui, c'est lui, s'il prend pas de produits, ben il est sacrément. Génétiquement, il est chanceux.
Non. Ouais, il mange pas avec du Kinder Bueno, je pense pas, mais après, sur la science de la nutrition et de l'entraînement, il est incroyable, vraiment incroyable. Je sais pas si tu regardes ses vidéos YouTube, mais ce qui est passionnant dans ce qu'il raconte, c'est que tout est prouvé et appuyé sur des études scientifiques. Et ça, c'est quelque chose qui est bien, parce que la plupart du temps, sur les réseaux sociaux, tu dis, ouais, par exemple, les glucides après 18 heures, ça fait grossir. Je dis un truc totalement bateau, hein, tu vois. Mais il y a aucune approche et aucune preuve scientifique derrière. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'il le cite et il donne les études, et c'est ça qui est intéressant. Et il fait beaucoup d'études statistiques, il fait beaucoup d'études de cas, et c'est ça qui est génial dans ce qu'il fait et qui est passionnant, je trouve. En France, je trouve qu'il y a... Ouais, c'est difficile d'avoir de très bons dans le milieu du fitness, parce que bah il y a un peu à prendre de chaque personne. Il y a Nassim qui est très bon sur l'entraînement, qui est vraiment très intéressant sur son approche. Après, bah évidemment, t'as tous les classiques, ceux qui sont là depuis longtemps, Thibaut InShape, etc., qui sont, je trouve, là plus pour motiver les gens, pas forcément avec des fondements intéressants derrière. Après, c'est mon avis, hein, qui sont vraiment là pour du marketing, mais qui, du coup, Moi, ce que j'aime bien chez eux, c'est que ils motivent les gens. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans... Vas-y.
En tout cas, il se transparaît pour, en ce qui concerne Thibaut, je trouve une grande bienveillance.
Après, on adhère ou on adhère pas avec Thibaut, tu vois. Mais l'idée, c'est de se dire, le gars, il est là pour motiver les gens, il est là pour se donner à 200%. Et c'est ça que j'aime bien, parce qu'il y en a une fois sur deux sur les réseaux sociaux, les gens, ils sont motivés une fois sur deux. Mais l'idée, c'est de se dire, tu peux pas prétendre inspirer des gens, inspirer et motiver des gens si toi-même, au bout de deux entraînements, t'as la flemme. Il faut que tu puisses être motivé. Enfin, c'est ce que je disais il y a pas longtemps sur les réseaux sociaux. C'est, tu peux pas prétendre motiver et influencer des gens si toi-même t'as la flemme. Si toi-même t'es pas capable de te dire, c'est une question de rigueur. Aujourd'hui, j'ai peut-être la flemme d'aller m'entraîner. Aujourd'hui, j'ai peut-être pas envie d'aller m'entraîner. Mais je suis là pour donner à 200%. Je suis là pour motiver. Et si moi, tu vois, le matin, j'arrive au cabinet et je me dis, j'ai pas envie de faire du bien. Aujourd'hui, j'ai la flemme. Aujourd'hui, je suis pas bien. Ben non. Écoute, il y a des patients qui sont là, qui viennent en consultation pour toi, qui t'attendent. Donc, c'est pas une question de j'ai la flemme. C'est pas une question de j'ai pas envie. C'est une question de rigueur. Il y a des gens qui t'attendent, il y a des gens qui sont là pour toi. Donc à un moment donné, c'est une question de discipline, une question de rigueur, une question de savoir vivre tout simplement. C'est t'as des gens qui t'attendent et tu peux pas te dire et tu peux pas te permettre de dire j'ai la flemme, j'ai pas envie. Tu mets tes soucis de côté et tu te dis j'ai un travail à faire, j'ai un même pas forcément des performances à faire, mais j'ai quelque chose à accomplir aujourd'hui et je me dois de le faire. Et pour moi. C'est une question de rigueur. Je me pose pas la question, tu vois. Moi, quand je viens m'entraîner, il y a des fois j'ai la flemme. Je me dis, Malice, tu serais bien dans ton canapé ou t'as trop de travail. En ce moment, tu vois, je coule sous le travail et ça m'embête un petit peu parce que du coup, j'ai la tête un petit peu partout. Mais je me dis, qu'est-ce qui te fait du bien et qu'est-ce que t'as envie, enfin, avec quoi t'as envie de terminer ta journée. Moi, j'ai envie de terminer ma journée avec deux choses. Avoir appris quelque chose, pour moi, c'est la chose la plus importante pour terminer une journée. C'est-à-dire que j'ai envie d'apprendre quelque chose. Tu vois, là, c'est un échange qui est passionnant avec toi parce que je vais apprendre des choses sur différents points, sur différents sujets. Et j'ai envie de pouvoir me dire, j'ai fait ce qui me fait plaisir. Et ce qui me fait plaisir, c'est aller m'entraîner, c'est bouger. Il y en a qui disent, mais repousse ça, Malice, prends du temps pour toi, etc. Mais non, en fait, moi, ce qui me fait plaisir, c'est bouger, c'est pouvoir... me développer, surtout point psychique comme physique, et c'est ça que je trouve passionnant et que j'ai envie de transmettre au quotidien, même faire du bien aux patients, tu vois. S'il ressort de la consultation et qu'il me dit encore j'ai mal, je dis ouais, mais regardez, vous avez encore mal, mais vous arrivez à plus bouger. Ils me disent ah ouais, c'est vrai. Et toujours voir le côté positif des choses, c'est aussi quelque chose de très très important pour moi.
Bon, plein de choses intéressantes dans tout ce que tu as dit. Nassim Saïli que j'attends ici, que j'attends comme ça à bras ouverts.
Ça va être passionnant. Moi aussi, je pense qu'il va y avoir un très très bon échange, je pense.
On a eu quelques petits allers-retours par mail, mais rien n'est fait encore là. Ça va être Nassim est quelqu'un d'occupé.
J'imagine.
Et Thibaut, n'en parlons pas. Je l'ai pas contacté. De toute façon, j'y regarde un peu. Il est pas facile à contacter.
Non, je pense pas.
C'est vrai que putain, le jour où j'ai l'occasion peut-être de faire un épisode avec Thibaut InShape, je vais
prévoir. Ça peut être intéressant. Ouais.
Je vais prévoir 4-5 heures d'enregistrement, même si lui il n'aura pas 4-5 heures. Alors, ça fait quoi d'être je vais balancer ça comme ça. Ça fait quoi d'être une femme musclée à 24 ans, vraiment plus musclée que des gars, que beaucoup de gars qui s'entraînent. Au 21e siècle, je sais pas, avec tous les réseaux, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que il y a des côtés indésirables, un peu comme avec les produits, comment ça se passe?
Je t'avoue qu'il y a les deux côtés. Il y a les deux côtés parce que t'as le côté où t'as les gens qui sont là, waouh, Maïs, tu pousses lourd. Par exemple, je fais mon développé couché et quelqu'un un garçon à côté qui met moins lourd que moi, il me regarde avec des yeux, tu sais, des yeux de mérou, et il me dit c'est pas possible, elle est plus lourd. Tu vois, du coup, c'est le côté où je suis contente de pouvoir arriver à pousser plus lourd que certains gars. Et ce côté admiration de certains hommes aussi qui me disent c'est cool, t'as un très beau physique. Mais il y a aussi le côté très jaloux, et j'englobe le mot jaloux dans le sens où j'englobe les gens qui ont la flemme et qui critiquent, Donc, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas le courage d'aller s'entraîner ou qui se trouvent des excuses pour ne pas aller s'entraîner et qui se permettent à côté de venir critiquer, tu vois. Donc ça, c'est une partie des personnes. Il y a ceux qui disent oui, mais toi tu mens, tu utilises des stéroïdes, etc. Donc ça, c'est aussi pour moi de la jalousie, dans le sens où moi je m'entraîne dur, hein, je veux pas le cacher, je m'entraîne dur pour avoir ce physique là. Donc il y a le côté positif où je suis contente de pouvoir inspirer des gens et qu'on me dise waouh, t'as un beau physique. Mais il y a aussi le côté où on me dit t'es une femme et t'es musclée, attends, mais c'est moche, t'as pas l'impression de ressembler à un homme, ou on me dit j'ai eu plusieurs fois la critique, c'est moche, c'est un homme, c'est pas athlétique.
Ça, on te le dit devant toi ou c'est des choses qui sont derrière les commentaires? Est-ce que il y a quelqu'un qui te dit c'est moche?
Non, toujours derrière les commentaires. Il n'y a jamais eu de en face, ça a toujours été de la bienveillance. En face, ça a toujours été, on m'a dit waouh, c'est cool, t'as un super physique, ou waouh, t'es musclé, etc. Ça fait longtemps que tu t'entraînes, etc. Donc l'échange est toujours très cordial et avec beaucoup de bienveillance, je trouve, en face. Et ouais, c'est dommage parce que les gens sont. Enfin, moi, je suis pas du tout fermée à la discussion et au contraire, si on va me critiquer, j'aurais plutôt tendance à venir échanger sur le sujet. Enfin, c'est normal de pas être d'accord sur tout point. Mais le souci, c'est que c'est en général quand on dit c'est moche ou t'es un homme ou c'est trop musclé, c'est trop avec beaucoup de méchanceté. C'est toujours derrière les écrans et c'est pour ça que ça me dérange un petit peu parce que déjà la discussion est plus compliquée. Et puis c'est beaucoup plus facile de critiquer derrière un écran parce qu'en général, quand on critique derrière un écran, on est dans son canapé et on n'est pas en train d'accomplir quelque chose. Et c'est ce que je te disais, c'est que tu peux pas prétendre, tu peux pas venir critiquer et donner des leçons si toi-même t'es pas irréprochable de ton côté. Si tu t'entraînes et que tu viens critiquer en disant c'est moche, moi il y a pas de souci, chacun a son avis. Mais si de ton côté tu ne fais rien pour avoir le physique que tu veux et que tu te plains et que à côté de ça tu viens critiquer le physique de quelqu'un, c'est un peu compliqué. Surtout que la beauté c'est subjectif, le physique c'est subjectif. Moi je trouve des femmes rondes extrêmement jolies, je trouve des hommes ronds extrêmement jolis aussi. Et c'est pas parce que je suis musclée que je suis moche, c'est pas parce que je suis sèche que je suis jolie, c'est pas parce que j'ai des cheveux blonds que je suis jolie. Tu vois, la beauté c'est subjectif et venir critiquer un physique, je trouve que c'est très facile. C'est très facile parce que c'est surtout derrière un écran, je trouve que c'est facile parce que tout est subjectif dans la beauté.
On t'envoie des messages en privé parce que si c'est les commentaires sur YouTube ou sur Insta, c'est très très anonyme. Mais est-ce que tu reçois des messages privés d'hommes ou femmes qui viennent te confronter par rapport à ça? Comme si vraiment ils cherchaient à attirer ton attention sur ce point précis.
Ouais, mais en général la discussion est, enfin quand c'est comme ça, moi je repère un petit peu les petits malins et en général la discussion est pas possible, c'est-à-dire que c'est de la critique, c'est de la méchanceté gratuite et moi dans ces cas-là, j'ai pas mon temps à perdre, je les bloque et puis.
Comment tu les repères? Ça, je suis curieux. Est-ce que ils arrivent en snake ou?
Ils arrivent avec un panel de fautes d'orthographe. En général, quand on met des fautes d'orthographe comme ça et qu'il y a plus de fautes d'orthographe au mot que sur ta phrase, je me suis dit ah oui, là ça va être compliqué. Et du coup, en général, déjà je les repère comme ça. C'est pas pour être méchante, mais je les repère comme ça. Et puis ensuite, c'est des gens qui sont qui me suivent pas en général et qui viennent simplement regarder mon profil ou qui sont tombés sur mon profil pour X ou Y raison et qui tombent dessus. Et je leur dis mais en fait, la première chose, tu vois par exemple, c'est je mets une story de moi en post workout. Je suis congestionnée, du coup forcément j'ai un physique un peu plus impressionnant. Et je reçois un c'est moche, c'est espace moche. Et tu vois, ça fait déjà, c'est pas forcément plaisant. Et la première chose que je réponds en général à ce genre de personnes, c'est, je leur demande, mais pourquoi est-ce que tu viens commenter quelque chose qui ne te plaît pas? Je dis, moi, en fait, c'est tout bête, hein, mais moi, il y a un truc qui me plaît pas, tu vois, je passe mon chemin. Je m'attarde pas sur le sujet. Surtout si, je suis pas la personne, tu vois. Si imaginons il y a une nana qui fait un programme abdo et que j'aime pas du tout ce programme-là, je vais pas m'amuser à lui envoyer un message. Je vais dire, t'as vu ton programme, c'est complètement pourri. En fait, moi, tu vois, ça me viendrait pas à l'idée de venir critiquer quelqu'un, surtout si je la suis pas. Si, tu vois, rien, par exemple, ma sœur qui est sur les réseaux, qui fait quelque chose qui est pas forcément bien, ou la chose avec laquelle je ne suis pas en phase, je vais dire, pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu vois, là, je vais lui demander, pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que, quelle était ton intention derrière? Mais je vais pas lui dire, c'est nul. Je vais juste simplement la questionner. Et toujours, je pense avoir un peu de bienveillance derrière ses propos et pas dire, genre, juste, c'est moche. Sachant que tu ne suis pas la personne et que enfin si tu la suis pas, tu connais pas son histoire derrière. Moi, si tu mets un plat derrière, enfin tu mets un plat en story, toi par exemple, où tu manges, je sais pas, une assiette sans viande ou sans quelque chose, je vais pas te dire qu'est-ce que tu fous, Jérôme, c'est quoi ce truc-là, c'est n'importe quoi. Tu vois, il y a peut-être une raison derrière et tu la connais pas. Donc venir critiquer sans connaître les choses derrière, j'ai vraiment du mal avec ça. C'est
Ok. Est-ce que au contraire, ça t'arrive de recevoir des messages, hommes ou je pense plus aux hommes à la limite, mais qui au contraire ne vont pas critiquer en disant c'est moche, mais allez, je vais la reformuler différemment. Est-ce que tu sens que avec ce physique développé, tu as une espèce de pouvoir d'attraction sur certains hommes par rapport à avant où tu n'avais pas ce physique, où tu étais pas aussi musclé, voilà, par exemple?
Bah, je t'avoue que c'est plus compliqué du coup. Plus compliqué parce que du coup si c'est des hommes qui sont simplement qui font du sport mais du sport un petit peu, de la course à pied, enfin, tu vois, un truc où c'est de temps en temps, pas forcément quelque chose qui une routine et un objectif pour eux, bah c'est compliqué de voir une femme qui est très musclée parce qu'ils vont se dire déjà l'ego masculin, c'est bête à dire, mais si ta femme, enfin si ta copine est plus musclée que toi, c'est un peu plus compliqué. Donc j'ai souvent des messages, mais plutôt d'hommes qui font du fitness. Si c'est une personne qui fait je sais pas moi, de la natation ou tout autre sport, j'aurais pas forcément de message de ce côté-là. C'est vraiment plus les personnes qui sont dans le milieu du fitness. Après, il y a de tout. Hein. Moi, comme je disais, qu'on me dise c'est trop ou c'est pas très joli, je suis ouverte à la discussion. Tu vois, chacun a son avis et je peux comprendre que ce soit moche et je respecte le point de vue. Mais j'ai des messages d'admiration aussi de gens qui me disent c'est cool, Maïs, tu vois. Là, je crois que c'était quelques jours, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, on m'a dit, écoute, Maïs, j'aime pas ton physique parce que c'est pas ce à quoi j'aspire, mais je trouve que ça, il y a une forme de respect à avoir au vu de ton physique parce que, mine de rien, c'est du travail. C'est pas un physique auquel j'aspire, mais il y a du travail, donc juste respect. Et tu vois, un message comme ça, c'est cool parce que, il y a de la bienveillance derrière, mais il y a aussi du respect.
Alors moi je serais partagé, tu vois.
Ah ouais.
Je comprends ce que tu veux dire. Le fait qu'il y a du respect, que tu sens une certaine reconnaissance dans le travail que t'as accompli et que cette personne t'en fait part. Mais de dire j'aime pas ton physique mais ceci, enfin ou j'aime pas, j'apprécie pas.
Non mais il a pas dit de cette manière-là.
Ouais bon alors peut-être pas dans cet exemple-là, mais d'une manière générale, si ça s'était passé comme ça, moi je serais. En fait, partager. Je me demanderais pourquoi tu viens me donner ton avis alors que je t'ai rien demandé. C'est ok, c'est gentil et tu me dis. Alors après, t'es sur les réseaux, donc forcément.
C'est ce que j'allais
c'est
dire.
Différent,
c'est différent
parce que moi, je suis pas. Moi, je me montre. Enfin, je montre pas. Moi, je fais pas ça. Donc forcément, quelqu'un viendrait me donner son avis sur moi, sur soi, mon physique, soit mon, je sais pas, manière de penser ou ma manière de faire. J'aime pas. Ok, très bien. Pourquoi tu me le dis? J'en ai rien à foutre. Viens me parler pour me donner des encouragements à la limite. Mais si t'aimes pas ce que je fais, viens pas me dire. C'est j'aime pas ce que tu fais, mais je trouve ça intéressant. Merci.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais moi, c'est le quotidien. Tu vois, tous les jours, il y a des gens qui viennent me donner leur avis. Du coup, je prends les avis au-delà de 50% de bienveillance. Tu vois, là, il y avait. J'aime pas ton physique, mais. Et c'est le mec qui m'a fait tilt en me disant ok en fait elle dit qu'elle aime pas, ce qui est incompréhensible.
En fait, excuse-moi, je te coupe, mais c'est un peu comme si à partir du moment où tu te montrais, tu donnais l'autorisation aux gens de donner leur avis sur toi. C'est et un peu. Et puis si tu leur dis pourquoi tu me dis ça, forcément il y aurait une réponse du type écoute, tu te montres, donc à un moment donné, faut bien, c'est-à-dire tu donnes l'autorisation à ça.
Tu sais que ça a été le sujet très longtemps pendant le premier confinement, parce que pendant le premier confinement, les gens étaient beaucoup sur les réseaux et on se sont permis de ils traînaient sur les réseaux, ils avaient que ça à faire. Et du coup, j'ai eu énormément de critiques sur mon physique pendant le premier confinement. Ça n'a pas été facile, je t'avoue, hein, parce que j'ai eu quotidiennement. Là, c'est, enfin, actuellement, les gens sont plus bienveillants, mais pendant le premier confinement, c'est vrai qu'ils étaient très méchants sur les réseaux sociaux, et j'ai eu beaucoup de messages méchants. Et c'est vraiment ça. Je leur ai dit, mais pourquoi est-ce que tu te permets de critiquer en me disant c'est moche? Et les gens, ils m'ont répondu, et c'est pour ça que ça m'a fait penser à ce que, enfin, ce que tu as dit m'a fait repenser à ça. C'est-à-dire que il y a des gens qui m'ont dit, ouais, mais tu es sur les réseaux, donc tu te montres, donc tu acceptes la critique. J'ai dit non, en fait, ce que je fais sur les réseaux, c'est que je partage mon quotidien, c'est que je partage mes envies, ce que j'aime faire, etc. Je t'ai pas demandé de venir critiquer. Et les gens, ils me disent, à partir du moment où t'as un compte public, tu dois accepter la critique. Mais non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que c'est pas mon compte Instagram, c'est pas une vitrine publicitaire, une décharge à commentaires. C'est simplement ma vie, mon contenu et puis ma routine quotidienne. Je suis pas là pour accepter tous les avis et toute la décharge émotionnelle des gens. Et c'est vrai que pendant le premier confinement, c'était compliqué. Hein. C'était pas simple. Mais
c'est un débat, ça. Hein. C'est un débat. Moi-même, je ne suis pas arrêté sur mes idées. Je n'arrive pas. De toute façon, tout est sujet à changement, mais.
On pourrait parler des heures de ça, je pense, de toute façon.
Ouais, forcément. J'aurais vraiment tendance à penser qu'effectivement, à partir du moment où t'es public, il faut être. C'est pas qu'il faut tant accepter, mais c'est que faut être au courant que ça va être le cas. Mais est-ce que ça veut pour autant dire que les gens ont raison de donner leur avis? Non, c'est genre. En fait, c'est un peu comme ce podcast est disponible. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Bon, pour l'instant, il y a plus de personnes qui manifestent qu'ils aiment. Et je pense aussi le format long fait que les gens qui aiment pas, en fait, ils partent, prennent pas le temps de tout écouter, peut-être pour donner un avis négatif, ça a pas de sens. Et c'est beaucoup moins du snack comme ça. Tu sais, les photos, ça va très vite. Tu donnes très vite ton avis, tu barres. Le podcast beaucoup moins. C'est genre, si t'es pas intéressé, tu vas pas jusqu'au bout. Mais je comprends que il y en a qui, ça arrive que j'ai des commentaires surtout sur YouTube parce que il y a un petit peu plus de visibilité puisque YouTube, il y a beaucoup de touristes. Donc sur certains épisodes qui ont fait un peu plus de vues, j'ai des commentaires qui sont parfois drôles de mépris, drôles de négativité. Ouais. Je l'accepte dans le sens où c'est le jeu. Mais néanmoins, je ne peux quand même pas m'empêcher de mettre à la place de la personne et me dire mais nom de Dieu, mais pour quelle raison tu as écrit, pourquoi la raison t'as écrit ça? Alors quand c'est constructif, je veux bien. Quand c'est j'aime pas parce que ça remet. Tu vois, j'ai eu des retours sur certains épisodes, je vais pas dire lesquels, qui ont fait beaucoup parler. Et j'ai eu des retours négatifs même en privé de gens qui m'ont dit c'est limite qui m'ont critiqué d'inviter certaines personnes parce que blabla j'invite qui je veux je veux dire c'est mon émission donc je fais ce que je veux faites votre podcast si vous voulez ne pas inviter qui vous avez envie d'inviter
c'est ça.
Et ou l'écoutez pas au pire mais ouais. Donc il y a vraiment des gens qui ont manifesté leur critique et certaines étaient constructives c'est il y a ceci il y a cela il y a ça alors je le comprends je réponds pas parce que je veux pas donner de je veux pas balancer de l'huile sur le feu, tu vois. Donc je réponds pas trop. Je dis ok, merci pour ton retour, très bien, ciao. Et puis je me mouille pas. Mais néanmoins, ça c'est les critiques constructives qui des fois viennent chercher un peu de croyances limitantes. Et puis les gens ont envie de dire des choses, ont envie de manifester leur opinion et sans être, tu vois, sans faire de faute d'orthographe. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui réfléchit. Fine. Et puis il y a d'autres critiques, on les connaît. Hein, c'est celles qui juste balancent de la négativité et puis ça n'a aucun sens. Et là, par contre, même si je les accepte parce que c'est le jeu, c'est la règle du jeu dans un sens, je peux m'empêcher de dire mais comment c'est possible d'être aussi con?
Je suis totalement d'accord. c'est embêtant. En fait, moi, à partir du moment où la critique est constructive et qu'elle permet de faire avancer le podcast, que ce soit sur un certain point, sur ça peut être genre un truc tout bête, hein, on dit la qualité de ton audio c'est pourri, tu vois. Ok, c'est une critique qui est pas forcément agréable à entendre parce qu'on essaie de toujours tout faire ce qu'il y a de mieux pour la chose, mais du coup se dire aussi, ok, ça va pas, la personne aurait pu le dire d'une meilleure façon, ça c'est sûr, mais c'est une critique qui reste.
Il y a le tact, ouais.
Ouais, c'est ça. En fait,
les gens ont pas le tact sur commentaire.
Non, non, ouais, ou c'est comme moi, tu vois, par exemple, je poste une recette et enfin une photo d'une recette et j'ai pas encore mis la recette et on met en commentaire recette point d'interrogation. T'imagines le matin, toi arrivé devant tes collègues.
Ouais, ouais.
Non, mais je trouve ça dingue. Oui. Tu vois, c'est pour moi ça me viendrait jamais à l'esprit de, tu vois, mettre un commentaire imaginons en tu postes un truc sur Instagram et tu mets le lien de mon podcast est en description. Et moi je te réponds, c'est où ? Tu vois ?
C'est un ouais, peu bête. Ça c'est oui.
C'est l'assistance des gens et c'est ça, mais c'est dommage en fait parce que au final la personne est peut-être très gentille, très bienveillante, mais par une mauvaise information et par des mots qui manquent, pour le coup c'est le cas de le dire, bah ça te donne pas envie de répondre et c'est nul, tu vois, parce que l'idée aussi des réseaux et d'un podcast et de la plateforme de YouTube, c'est de pouvoir échanger, mais si les gens derrière sont pas bienveillants ou pas ouverts d'esprit, c'est dommage quoi.
Est-ce que toi, à titre personnel, depuis que tu t'es développée physiquement, tu te sens plus attirante ?
Très bonne question. Très, très bonne question.
Tu l'avais pas vu venir, celle-là ?
Non, je l'avais pas vu venir. Je dirais pas attirante, mais je vais dire que j'ai plus confiance en moi parce que, de base, j'ai pas confiance en moi.
Pourquoi ?
Parce que j'estime que j'ai justement encore trop à apprendre, je suis encore trop jeune et qu'il y en a beaucoup qui ont beaucoup plus, que ce soit de la culture générale, que ce soit de la pratique en ostéo, une aisance dans les pratiques, une aisance dans la réalisation de certains mouvements, dans plein de choses, qui du coup, en fait, je me sens pas légitime de et je le mets... je laisse les trois petits points à la fin. Je me sens pas légitime d'eux. Donc, ça m'importe le fait d'avoir un physique aussi de la reconnaissance en me disant « Bah, t'as vu, Mélisse, t'as quand même réussi à avoir un physique, t'as quand même réussi à avoir une musculature qui t'a permis de te développer et d'avoir peut-être de la reconnaissance de certaines personnes. » Donc, oui, d'un certain sens, ça me rend plus fière de moi. Mais je pense que j'ai encore du chemin à parcourir sur ce sujet-là, ouais. Donc oui, mais pas totalement.
Mais quand t'as commencé, le fuel, la motivation interne, ou externe, comment on le voit, c'était quoi la raison de commencer à t'entraîner, à te développer? Si t'es à l'aise d'en parler, je sais pas où c'est que je vais. Moi, c'est toujours.
Alors, l'histoire du fitness pour moi, c'est là. T'es prêt? J'espère que t'es prêt pour mon monologue. J'ai démarré. je faisais. En fait, moi, j'ai une dysplasie trochléenne. Donc toi, ça doit te parler, mais pour ceux qui écoutent le podcast, pas forcément. Pour faire très très court, mes rotules ne tiennent pas. Elles sont très très mobiles, ce qui fait que du coup, en fait, quand j'étais petite, je descendais le bus, boum, luxation de la rotule, je tombais dans les pommes, etc. Et mon corps me mettait un stop vraiment très très fort, c'est-à-dire que chaque fois, je tombais dans les pommes. Donc, par exemple, j'ai passé mon 500 mètres au bac dans les pommes, puisque je courais, j'ai vu la ligne d'arrivée, j'ai senti mon genou partir, et j'ai glissé tout le long jusqu'à la ligne d'arrivée, enfin, une catastrophe. Donc, j'ai commencé le fitness pour muscler mes quadriceps et renforcer, du coup, mes genoux, parce que le kiné fonctionnait pas forcément sur ça. Donc, j'ai démarré à 57 kilos, à peu près, le fitness. Et après, bah forcément, comme sur les réseaux, on disait il faut arrêter les glucides pour perdre du poids, pour se muscler, machin. J'ai quasiment... je vais pas dire arrêter les glucides, mais j'ai commencé à beaucoup moins manger. Je suis redescendue à 49 kilos. Et 49 kilos, en fait, pour moi, je me suis dit... comme je suis très pour la santé, j'aime pouvoir donner mon sang et puis pouvoir... être en bonne santé. Et en fait, en dessous de 50 kilos, je sais pas si tu le sais, mais tu peux pas donner ton sang.
Et non, je savais pas.
Et voilà, tu peux pas donner ton sang en dessous de 50 kilos. Bon, à l'époque, c'était comme ça, peut-être que ça a changé. Et du coup, je me suis dit, ok, ça va pas, Mélisse, faut que tu reprennes du poids, il faut que tu te remuscles pour pouvoir au moins pouvoir donner ton sang. Et les gens commencent à me dire aussi, ah ouais, t'es maigre, etc. Et du coup, tu vois, dans ta tête, tu dis... Attends, je suis maigre, je peux plus donner mon sang, ça commence à faire beaucoup. Et du coup, j'ai commencé à remanger, et puis au final, j'ai repris du poids, et j'ai repris la musculature. Et quand tu commences à reprendre et qu'on te dit, oh, c'est cool, Maïs, tu reprends du poids, tu te muscles, etc., c'est motivant pour continuer. Et du coup, je suis remontée petit à petit, je me suis fait coacher pendant un an et demi, deux ans, je crois. Et donc,
en final, fait, j'ai
Que t'as eu, Alex de Smart Body.
Ah oui, très bien, ouais.
Donc voilà, que j'avais travaillé notamment avec eux d'ailleurs pendant un certain temps.
Épisode, j'essaie de toujours les avoir. Que j'ai fait un épisode avec lui, ça arrive de le retrouver. Ouais, c'était il y a un an. Épisode toujours d'actualité. Ah, je vais pas. Si, 39, épisode 39, Alexandre de Labourier.
Voilà, c'est ça. C'est lui. Et donc voilà, il m'avait quand même permis de bien progresser sur le physique en me disant n'aie pas peur de prendre du poids et puis construis-toi un physique tout simplement. Et puis après, bah au final, j'ai continué à travailler par moi-même, j'ai fait des formations aussi de mon côté, il y a l'ostéo qui m'a aidé aussi pas mal à prendre conscience de mon corps et donc voilà, c'est comme ça que j'ai bien progressé, surtout sur mes études d'ostéo où j'ai bien progressé parce que bah au final tu bah, t'es en sous-vêtements toute la journée en étude d'ostéo, ça on le sait pas aussi, mais on est en une bonne partie de la journée en sous-vêtements.
Donc, tiens, bah, tu m'amènes sur un terrain que je vais me noter parce que hyper intéressant. Vas-y, je te laisse continuer.
Et ouais, et du coup au final, bah les gens, j'ai toujours eu les abdos apparents. Et en fait, au final, quand tu construis un physique, bah t'es musclé et t'as les abdos. Du coup, les gens sont là, waouh, c'est trop bien, c'est trop cool, t'as un physique qui est sympa. Et du coup, bah c'est parti de là. Et vraiment, c'est sur les études d'ostéo où j'ai le plus progressé. Bah, physiquement, en dehors du coaching même, hein, c'est là où j'ai le plus progressé physiquement.
Tu penses que les études aussi, les cours théoriques, l'anatomie, la physiologie, tout ça, t'a aidé
à prendre confiance en moi aussi.
Je pensais plus à construire un physique, mais confiance en toi.
Ouais, confiance en moi, parce que bah toi aussi, je pense que t'as dû faire l'épreuve de je passe devant tout le monde en sous-vêtements, devant tous tes camarades. C'est ouais. Ça. Donc. Horrible. On va pas se mourir. Horrible, et même que ce soit en tant que praticien ou en tant que patient devant toute la classe, c'est pas ce qu'il y a de plus aisant au début, mais ça permet, je trouve, de sortir sa zone de confort. Et du coup, tu te dis, c'est ouais. Vas-y.
Partager sur ça encore une fois. Enfin, je suis d'accord hein, dans l'idée où à un moment donné, c'est se mettre dans la jungle qui fait que tu vas te rendre plus fort.
Ouais.
Je suis partagé dans le sens où des fois les pour certaines personnes je pense le challenge est peut-être trop traumatisant pour être quelque chose comme vécu.
Ça dépend du prof aussi je pense.
Parce que tu vois si alors je parle pas pour moi parce que j'ai pas eu de traumatisme mais je peux le voir je peux imaginer.
Je suis d'accord avec toi parce que je pense qu'il y a des gens qui sont pas capables et qui pour eux c'est trop. Et c'est ce que tu dis, hein, trop, et du coup, au final, ils le vivent très, très mal, et je pense que ça peut être traumatisant, et justement, leur faire perdre confiance en eux, parce que si, au final, ils n'y arrivent pas du tout, de par de la panique, de par du stress, et qu'à côté de ça, bah, y a tout le monde qui se moque, ou qui sont là pour les juger, bah, au final, c'est contre-productif, alors que l'idée de base, c'est de donner confiance, et de faire prendre confiance en lui devant tout le monde. Mmh. Donc, je te rejoins sur ça.
J'ai une petite anecdote là qui me vient parce que c'était le premier jour un des premiers jours donc pendant les études d'ostéo lorsque j'étais en première année c'était pas les premiers cours parce que les premiers cours c'est très théorique et puis tu sais tu présentes etc ouais. Mais les premiers cours pratiques ça doit arriver je sais pas quelques jours après le début les premiers cours pratiques en ostéo c'est enfin en tout cas qu'on avait fait nous c'était de la TOG donc traitement ostéopathie générale bon rien de folichon mais tu sais il y avait une petite appréhension de se dire putain
on va
se retrouver ouais tous dans une même pièce alors en demi-groupe on était une centaine dans la promo la première année pour démarrer donc on va être on va être entre 40 et 50 là dans deux grandes salles donc ok on est coupé en deux mais de ce que tu sais c'est que probablement tu vas être en binôme et tu vas faire des techniques et puis que tu vas être en sous-vêtements et donc il y a une certaine appréhension ou en tout cas tu dis tiens c'est bizarre on va tous se voir en sous-vêtements quel cursus propose un truc pareil, c'est bizarre.
C'est ça. Et puis en plus, tu te dis pas que ça va être dans les premiers jours. Du coup, moi, tu vois, je me disais, ça va être dans les, peut-être en deuxième année ou en troisième année, tu vas commencer à te mettre en sous-vêtements.
Ouais, ça arrive vite.
Et dès les premiers jours, on te dit, par exemple, dans trois jours, c'est cours pratique sur, je sais pas, l'anatomie du membre inférieur. Et du coup, prévoyez, n'oubliez pas que c'est en sous-vêtements. Et en fait, tu te dis, attends. Mes camarades, je les connais depuis deux jours et je vais déjà me mettre à poil devant eux. Et là, je dis, oh là 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 là, comment est-ce que ça va se passer? Et du coup, je me rappelle même, moi, de ce moment-là, je me dis, mais quels sous-vêtements je vais pouvoir mettre? J'ai la panique, tu vois, tu te dis, mais c'est pas possible, il faut que je me mette en short, il faut que je me mette en brassière, etc. Donc, la panique et puis le peur du jugement des autres aussi. C'est bête, mais tu te dis, il y a des nanas qui sont super bien fichues, elles font de la danse, elles sont, elles sont trop bien, quoi. Et tu dis, moi, j'arrive, puis je démarre le fitness, j'ai pas un physique ouf. Et là,
Parce que toi, ça faisait combien de temps à ce moment-là, la première année que tu faisais, que tu travaillais sur ton physique?
Bah là, j'étais sur la descente du poids, donc je pense que ça devait faire peut-être un an que je devais démarrer le fit. Ah, peut-être, ouais, c'est ça, un an. Donc j'ai dû perdre 7 kilos, ouais, je venais de perdre 7 kilos quasiment. Donc j'étais passé de 57 à début de 50, quoi. Donc
tu trouvais bien quand même, je veux dire, à ton premier niveau, t'étais plus ou moins confiante par rapport à ce
bien, mais par rapport à la première journée.
Ben oui, forcément, tu vois, je pense, parce que quand tu savais que t'allais te dénuder, pas entièrement évidemment, en classe, est-ce que t'avais, il y a une appréhension, mais c'est certain. Mais est-ce que tu disais, bon, ça va quand même, ça fait quelques temps que je travaille, j'ai perdu du poids, je me sens bien, ou alors tu te sentais pas bien parce que tu te sentais trop maigre? Enfin, juste pour savoir dans quel état psychologique t'étais.
Je me sentais partagée dans le sens où, comme tu disais, je me sentais bien, entre guillemets, mieux qu'avant, parce que du coup, j'avais perdu du poids, mais toujours cette idée de je me compare aux autres et il y en a qui sont mieux que moi. Donc, j'étais contente, mais je savais que je pouvais faire mieux. Et c'est pour ça que je suis encore descendue au niveau du poids et qu'après, j'ai dit, je sonnais la cloche, j'ai dit, Maïs, non, ça va pas, et remonte, quoi.
Est-ce que ça a eu un impact de fait de se mettre en sous-vêtements pendant les cours devant tout le monde? Est-ce que tu penses que ça a eu un impact sur le fait de vouloir encore plus perdre du poids?
Je sais pas. Je t'avoue que je sais pas. Je sais que ça a fait tilt sur le fait d'apprendre à ne pas se comparer aux autres. Ça, c'est, je l'ai appris surtout sur les premières années, dans le sens où, au début, comme je te disais, je me suis beaucoup comparé aux autres, ce qui est normal parce que forcément, tu démarres avec de nouveaux camarades, tu les connais pas, donc il y a beaucoup de jugement. Et au final, tu te dis, mais écoute, lui, il a une histoire qui est derrière son physique. Il a peut-être fait 15 ans de muscu, 15 ans de judo ou 15 ans de quelque chose que toi tu n'as pas forcément. Donc on a tous une génétique qui est différente, on a tous une histoire qui est différente, et c'est pour ça que je me suis dit, écoute, lui il a peut-être eu il avait peut-être ancien obèse, il a perdu beaucoup de poids, c'est pour ça qu'il a la peau distendue. Moi je l'ai pas, et puis voilà. Donc au début beaucoup de jugement, et puis après j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça et ça a été beaucoup plus facile, et du coup ça m'aide aussi maintenant sur les réseaux, et c'est ce que j'essaye d'expliquer à mes élèves et aux personnes qui viennent me parler en DM, quoi.
Ok, je vais revenir sur la petite histoire que j'avais, parce que c'est un truc à la con, mais donc premier jour, moi quand j'arrive sur le truc, en fait, donc l'appréhension et tu sais pas comment ça se passe, tu vois, et dès qu'on commence le cours, dès qu'on commence le cours, mais tu sais, on est assis et puis on va pratiquer une technique, et en fait alors normalement, comment ça se passe, c'est que je raconte ça pour ceux qui savent pas, hein, et la très grande majorité ne savent pas, c'est que ce sont ceux qui miment les patients, ceux qui font les patients, ils se mettent en sous-vêtements. Après, ça dépend de la zone, hein, si c'est le pied, un short suffit, ou remonter le pantalon, ça suffit, mais je veux dire, c'est pas tout le temps le cas, mais généralement, donc celui qui fait le patient est en sous-vêtements, et celui qui est le thérapeute, le praticien, n'est pas en sous-vêtements. Tu vois, et après, enfin, je sais pas comment ça se passait chez vous, mais normalement c'est comme ça que c'est censé se passer. Et voilà, la première technique qu'on a fait, eh ben je me suis mis en sous-vêtements aussi, en fait je pratiquais en sous-vêtements, et puis après j'ai levé la tête, j'ai fait et puis on m'a fait des remarques, j'ai dit non, mais c'est juste le praticien, c'est juste le patient en sous-vêtements, et je sais pas, dans le truc, moi j'ai dit, ah ouais, putain, je suis bien en caleçon, bon.
Génial.
Donc voilà, c'était assez, c'est Et donc voilà, c'est vrai que c'est bizarre, parce qu'après ça fait bizarre si tout le monde est en sous-vêtements, même ceux qui pratiquent, ça peut vite faire.
Et du coup, la question que je te pose là, c'est, est-ce que tu continues à pratiquer en sous-vêtements devant tes patients, ou tu t'habilles
tous les lundis matin entre 8h et 10h? C'est deux créneaux, donc pour ceux qui veulent prendre rendez-vous, c'est uniquement sur ces deux créneaux.
Ça marche.
Mais c'est des créneaux privés, c'est-à-dire qu'ils sont même pas affichés sur les plannings en ligne.
Ah, génial.
Ouais, c'est marrant. Bon, ok. Donc, sous-vêtements pratiques. Ça, c'est quand je dis que je vais m'arrêter là-dessus, parce que c'est assez intéressant de voir le parcours que toi, t'étais déjà dans le côté, tu voulais, t'étais dans le fitness. Enfin, t'avais commencé l'entraînement, essayé de perdre de poids. Enfin bon, tu faisais pas tout correctement, mais t'étais dans ce processus déjà pendant les études, où tu dois te montrer. Et si ça me parle, c'est parce que je l'ai vécu aussi, forcément, parce qu'on a fait, on a le même cursus, pas dans la même école, mais. Et que je me reconnais, parce que moi j'ai commencé aussi un peu à m'entraîner chez moi, à essayer d'améliorer mon physique. Il y a forcément un lien, en fait, le fait de te montrer, le fait d'être vulnérable.
C'est ça, ouais.
Il y a forcément
un lien.
Tu dis, tiens, tu vois que certains sont, comme tu le disais, il y en a qui ont telle histoire, ils ont tel physique. pour telle raison. Bon, il y en a aussi qui ont des gros physiques très musclés alors qu'ils font rien. Bon, ça c'est comme ça, hein, c'est des choses qui arrivent.
C'est du jeu.
Non, ils ont d'autres problèmes, hein, généralement. Chacun a ses problèmes. Et eux, ils n'ont pas ce problème. Mais donc j'ai commencé dans cette période-là. Donc toi, t'as commencé un tout petit peu avant. Moi, ça devait être en deuxième ou troisième année où je m'étais dit bon, là, il est temps que tu fasses un peu de sport, etc. Parce que j'étais vraiment une crevette. Pour ceux qui pensent que je suis une crevette, oui, mais évidemment, mais j'étais encore beaucoup plus crevette avant. c'est toujours se justifier comme ça. La caméra enlève les proportions. Tu vois. Ouais, et puis est-ce que t'as pris confiance au fur et à mesure? Est-ce que t'as développé ce physique, et est-ce que t'étais de plus en plus à l'aise en pratique? T'étais contente de le montrer? T'avais des feedbacks positifs auprès de tes camarades de classe, de promo?
Oh ouais, carrément. Et puis au final, ça m'a aidé. Même si en ostéo on utilise beaucoup les jambes pour manipuler les patients, pardon. Mm-hmm. Au final, ça aide quand même aussi d'être plus musclé, parce que du coup, moi qui ai beaucoup de sportifs, là je rebondis sur ma pratique là actuellement, c'est que j'ai vu que j'ai beaucoup de sportifs. Si t'imagines que je faisais 50 kilos, imaginons que je suis une vraie crevette et que j'ai un mec de 110 kilos qui arrive, un rugbyman du club d'à côté, et qui vient pour se faire manipuler des vertèbres, il va me dire elle va jamais me porter, tu vois. Alors que si j'ai un physique qui est un peu plus impressionnant ou qui est plus en embonpoint, si je puis dire, ça apporte plus de confiance et d'assurance aussi dans ma pratique. Donc au fur et à mesure, ouais, ça m'a aidé de prendre du poids, de prendre de l'assurance et de la confiance en moi, parce que je me sentais aussi avec les femmes c'est plus facile, parce que une femme qui est maigre, y a pas trop de jugement, mais quand t'as un homme qui est forcément plus lourd qu'une femme, c'est important, je pense, d'avoir un physique qui est un peu plus, je vais pas dire impressionnant, mais qui rassure. Ouais, c'est ça.
Rassure dans la technique.
Ouais, c'est ça. Si t'as ton médecin qui est tout pâle, qui est tout frêle et qui est tout machin, tu te dis c'est bizarre. Pareil, si tu vas voir une médecin nutritionniste qui est obèse, tu te dis c'est bizarre, tu vois. Donc juste être bien, pas forcément trop musclé ni trop. Bon, après il y a pathologies derrière qui peuvent être sous-jacentes, etc. Donc je prends juste un schéma classique. Mais juste, je pense que ça rassure. C'est le mot que tu as dit et utilisé. Je pense que.
Alors c'est bon. Je suis d'accord sur l'exemplarité, sur le fait d'avoir le résultat. D'être crédible et d'avoir un espèce de résultat sur soi-même qu'on enseigne aux autres ou qu'on montre aux autres, tu vois, d'une certaine manière, c'est comme tu disais, le médecin qui a bonne santé, le nutritionniste qui est pas forcément obèse. Je renvoie à un excellent épisode que j'ai enregistré il y a un moment et qui est sorti sur la chaîne, je pense, il y a quelques semaines, 2-3 semaines. Maximum, c'est celui avec Mathias Soulol, donc forcément c'est parce qu'on parle de plein de sujets qui tournent autour de ça, et puis il y a un bon bout qui part de la crédibilité. Est-ce qu'un nutritionniste doit afficher un physique, etc., pour être crédible? Et très intéressant tout ce qu'on dit, donc je renvoie à cet épisode. Et puis tu l'as pas écouté parce qu'il est pas encore sorti, mais quand il sortira, je t'invite à l'écouter, parce que Mathias Soulol est un gars que je sais pas si tu connais.
Oui, génial. Si, génial, ouais. Ce gars. Ouais.
Donc, toujours plein de choses à raconter, hyper intéressantes, et puis il est à fond dans la science de l'entraînement. Je voulais quand même revenir sur ça. Je suis désolé, je vais devoir creuser un petit peu. Parce que j'ai envie de comprendre un peu plus. Tu te sens pas nécessairement... Tu te grattes le nez, qu'est-ce qu'il va me dire?
C'est ça.
Qu'il va me raconter. Tu te sens pas... Tu m'as dit que tu as pris un petit peu de confiance, mais que d'un côté, tu n'es pas certaine de te sentir plus attirante. Est-ce que... Ouais. Alors, j'aimerais savoir comment ça se fait dans un sens, puisque... Tu as plus confiance en toi à travers ton métier, à travers ce que tu affiches, à travers les réseaux aussi, le fait de te montrer, évidemment, on en a parlé, tu as les commentaires négatifs, mais tu as aussi tous les commentaires positifs. Je pense que tu as reçu assez de feedback sur « waouh ». Et tu le sais que tu as travaillé dur pour afficher les tablettes de chocolat, on connaît le truc, tu vois. Et pour soulever le poids que tu soulèves, je t'ai vu faire des séries à 70 kilos au développé couché. Pour une fille, c'est Il y a très peu qui peuvent le faire. Donc, où c'est que le bas blesse? Comment ça se fait que tu ne sais pas où c'est que le bas blesse.
Je vois ce que tu veux dire.
Parce que je comprends qu'il y a un truc de confiance. Tu m'as dit, je suis pas encore, j'ai pas toute la confiance en moi. Mais pourtant, il y a quand même du chemin qui a été parcouru, tu vois. Donc, et avec tous ces feedbacks, cette validation que tu peux recevoir, où est le...
Mais c'est un gros travail que je fais sur moi-même là depuis 2 ans. C'est que j'apprends à je vais pas dire à m'aimer, tu vois, mais à être contente de... Enfin, je suis quelqu'un d'extrêmement perfectionniste et en fait, je suis jamais satisfaite de moi. Même si, tu vois, là, j'ai fait mes séries à... Même 77.5, j'avais fait dans l'info bench. Ouais, et tu vois, par exemple, je me dis, la dernière fois, j'avais fait trois répétitions à 80. Ensuite, j'en ai fait... j'avais fait 4 répétitions à 80. Ensuite, j'ai fait 3 et j'avais fait fini par 2, tu vois. Et en fait, j'ai terminé mes 4 séries. Je me suis dit, Mélisse, t'es vraiment nulle, tu vois. Parce que j'ai pas réussi à faire les choses. Et d'un autre côté, tu vois, je sors de ma série. Je me dis, ok, en fait, Mélisse, tu benches peut-être 3 fois plus que certaines autres nanas. Mm-hmm. Tu vois, donc en fait, c'est juste que je veux toujours plus. Et je veux toujours être... En fait, j'ai toujours été ultra perfectionniste dans ce que je veux faire. C'est-à-dire que, par exemple, quand je suis avec mes élèves en coaching... Je leur rends pas un travail bâclé. Je leur dis, écoute, il y aura peut-être un jour de retard. Peut-être que ce soir, je vais pas dormir parce que je veux terminer ton programme avant demain. Mais je veux que ce soit fait, je veux que ce soit bien fait. Et je pense que c'est le trop de perfectionnisme qui fait que du coup, je vais pas dire pas contente de moi parce que je suis contente de moi et je suis fière de ce que j'accomplis. Mais il y a toujours une part de moi qui me dit, Maëlys, tu peux mieux faire. Et là, donc tu vois, j'ai une certaine routine avec mes coachings sur des templates, sur des plateformes, etc. Et chaque jour, je me dis, qu'est-ce que tu peux améliorer dans ton template, même s'ils sont très bien, tu vois, même s'ils sont optimisés. Mais tous les jours, je me dis, qu'est-ce que tu peux faire de mieux pour optimiser ça? Et en fait, c'est toujours cette recherche de la perfection et cette recherche de la perfection qui fait que du coup, j'ai pas vraiment confiance en moi. Je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire, mais c'est pour ça que je travaille dessus. C'est-à-dire que il faut que j'apprenne à me dire aussi, tu peux pas rendre quelque chose parfait. C'est impossible. La perfection n'existe pas. Et c'est ça que j'ai du mal à accepter. C'est que moi, j'ai envie de pouvoir tout faire. J'ai envie de pouvoir me dire, j'ai envie de prendre 15 patients à la journée, j'ai envie de pouvoir répondre à tout le monde en DM, j'ai envie de pouvoir enregistrer un podcast avec Jérôme dans la même journée, et j'ai envie d'aller m'entraîner, j'ai envie d'aller manger un hamburger ce soir avec mes amis, mais c'est impossible, tu peux pas tout faire dans ta journée. Et c'est ça qui m'embête en fait, c'est que les journées sont trop courtes, vraiment trop courtes, et je pense que c'est ça la vraie raison. C'est encore en questionnement, je t'avoue que c'est encore... je travaille beaucoup dessus.
Pour essayer de se mettre à la place d'une femme, je suis pas une femme, donc j'essaie de me mettre à la place d'une femme.
Vas-y, prends une voix un petit peu plus épaisse.
Parce que la musculation, tout ça, c'est bon pour la santé d'une manière générale. Mais des fois, tu vois, il manque la discipline, il manque le petit truc. Il manque la motivation profonde, ou j'en sais rien, ou la structure pour y arriver. Ça, c'est aussi le rôle des personnes comme toi qui coachent, qui font des programmes. Mais une femme qui voudrait, quelqu'un qui voudrait commencer, qui voudrait améliorer son physique, qui voudrait se sentir mieux dans sa peau, soit perdre du poids, soit galber ses cuisses. Bon, c'est comme ça qu'on dit, ou galber ses fessiers, avoir le boule de Jennifer Lopez. même si...
certaines peuvent toujours s'accrocher. Ça sera...
Oui. Ah, naturel. Il faudrait que... Bon, bref. Toi, du moment, par exemple, on enlève les réseaux parce que les réseaux, c'est biaisé. Tu es beaucoup plus visible publiquement. Les gens viennent vers toi. Mais est-ce que tu te sens... Alors, c'est pas tant le mot attirante, mais lorsque tu sors, on enlève Covid, les clubs sont fermés. Je sais pas si tu es allé en club ou quoi que ce soit. Mais quand tu sors en soirée, quand tu sors dans la journée, quand tu es avec des amis, quand tu es dans un bar ou quoi, est-ce que tu sens le fait que d'avoir un physique musclé pour une femme attire plus les regards, mais pas dans le sens qu'est-ce que c'est que ça, mais dans le sens où tu sens que t'as un pouvoir d'attraction qui est carrément plus important qu'auparavant.
Ouais, totalement, parce que je vais pas te mentir, une fois sur 3, une fois sur 4, j'ai la réflexion, ah, tu fais du sport, quasiment une fois sur 3 ou une fois sur 4, et ça me fait plaisir, tu vois, parce que je me dis, bah, c'est cool, en fait j'ai un physique qui renvoie un petit peu de dynamisme, et non, ouais, pas à chaque fois, mais relativement régulièrement, où je sens, tu vois, des regards sur moi.
Ok, donc tu sens que t'as plus de succès, que ça a... Enfin, ça...
Bah après, le succès, est-ce que c'est du succès ou est-ce que c'est, je sais pas, de la critique ou de la jalousie ou de l'admiration, je sais pas, parce que je discute pas.
Bah quand tu continues à discuter avec la personne qui te fait ce compliment-là, tu sens que...
Oui, il y a de l'admiration, mais il y en a aussi qui regardent, tu vois, un petit peu... par exemple, des personnes qui font pas du tout sport, et parce que c'est leur choix, et qui... Tu sens les regards pesants sur toi et tu te dis, elle, tu vois, c'est plus du jugement. Mais il y en a aussi, enfin, tu vois, par exemple, là, j'étais en vacances au Portugal il y a pas longtemps et on faisait du kayak, un truc tout bête, et puis le moniteur me dit, ah, tu musclé, tu fais du sport, etc. Je dis, bah, écoute, oui, ça fait quelques temps que je m'entraîne. Et puis,
excuse-moi, c'est tellement cliché, le moniteur qui est...
Mais vraiment, en plus, c'était ça. Et du coup, on a commencé à discuter. Il m'a dit, ah, waouh, t'as un physique impressionnant. Et tu vois, en fait, c'est tout bête, mais ça me gêne. Parce que je suis contente, mais je suis quelqu'un de très timide. On croirait pas forcément au vu de mon activité sur les réseaux, mais je suis quelqu'un d'extrêmement timide. Et quand il m'a dit, oh, c'est cool, t'as un super physique, je dis, bah, merci, tu vois, la première chose, c'était ça qui, il m'a dit, ah, je peux prendre une photo avec toi, ça te dit, ensuite on a commencé à discuter, bah, en anglais, du coup, mais il a voulu prendre une photo avec moi et j'ai trouvé ça génial, tu vois, je me suis dit, j'ai peut-être un physique qui est, bah, quasiment autant musclé que lui, parce que lui fait du kayak, donc il a de très très bonnes épaules, et il était plutôt musclé comme garçon, et je me suis dit, bah, c'est cool, tu vois, parce que même si j'ai pas le physique de la nana lambda, tu vois, parce que la nana lambda est pas censée avoir des, enfin, je le mets entre guillemets, est pas censée avoir des grosses épaules, parce que dans la société on veut que la femme ne soit pas très musclée, je me suis dit, bah, c'est cool, parce qu'il est ouvert d'esprit, il me demande des photos, il me complimente sur mon physique, etc., donc j'étais contente, et puis voilà. Non, donc je suis contente qu'on vienne me voir et qu'on vienne me dire t'as un bon physique, mais toujours la petite Maëlys qui se dit oh, t'es timide, il y a quelqu'un qui te dit qui te fait des compliments, tu vois. Donc
tu le crois, ça, que dans la société actuelle on veut pas que la femme soit trop musclée?
Moi, j'aimerais ne pas y croire. J'aimerais dire qu'une femme peut être très musclée et plus musclée qu'un homme. Alors, moi, ça serait l'idée de base, qu'il n'y ait pas de stéréotype. La femme doit avoir des grosses fesses et des gros seins. C'est pas mon, enfin, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que la beauté est subjective et les critères de beauté sont subjectifs. Et que, ben, toi, peut-être que tu, je sais pas, tu vois, t'as une barbe. Et peut-être que pour toi, avoir une barbe, c'est, je sais pas, ça donne de la masculinité, ça donne de la virilité, tu vois ce que je veux dire? Et peut-être que, bah, tu croiserais quelqu'un dans la rue qui te dira, ah, bah, Jérôme, il a une barbe, il prend pas soin de lui, tu vois. Alors que toi, ça serait tout l'inverse. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, et non, mais c'est... tu ne contrôles pas ce que les gens pensent.
Ouais, voilà. Et du coup, bah, moi, en soi, pour moi, une femme peut être musclée. Une femme peut soulever du poids, comme une femme peut être ronde, comme une femme peut être maigre. Il y a pas de... J'ai pas de stéréotypes, j'aimerais juste qu'on, aujourd'hui, en 2021, on arrête de catégoriser les gens et critiquer les gens pour ce qu'ils sont.
C'est... Ça va me sembler être difficile, ça.
Oui, aussi.
C'est extrêmement difficile. Et de plus en plus difficile, d'ailleurs, puisque les...
Ouais, c'est compliqué, mais j'aimerais bien, hein, que tu vois, tu puisses te dire, aujourd'hui, j'ai envie de me raser la tête et j'ai envie de pouvoir être dans la rue en ayant la tête rasée sans qu'on me dévisage, tu vois. Mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué.
Ouais, c'est un peu idyllique parce qu'effectivement,
non. Mais avec les réseaux en plus, c'est l'accès à l'information, enfin l'accès à tout ça, je trouve que c'est.
Ouais, c'est compliqué. Ouais, ce sont des réflexions parce que bon, il y a plein de choses là-dedans. On va pas forcément. Je voulais rebondir quand même sur un truc. C'est tout à l'heure, t'as dit. Que pour développer le physique que tu as eu aujourd'hui, en tout cas, tu as dû t'entraîner dur. Ça, je remets pas absolument pas en doute. Et je me demande, et je pense qu'il y en a qui vont se poser la question, c'est quoi s'entraîner dur, surtout pour une femme?
C'est quoi s'entraîner dur? C'est une très bonne question. Moi, c'est s'entraîner dur pour moi. Bon, après, je vais pas rentrer dans les protocoles de coaching, etc. Mais moi, s'entraîner dur, c'est sortir de ma zone de confort. C'est-à-dire que tu fais ta série, tu dis « Ok, là, c'est bon, je peux plus, c'est la dernière répétition que je peux faire. » Et dans ma tête, ce moment où je me dis « Je m'entraîne dur », c'est-à-dire que je m'étais dit « Je fais 10 à 12 répétitions de chaque côté, j'ai un poids donné, etc. » Et je sens que je peux aller encore plus loin, et c'est de se dire « J'ai été plus loin que ce que j'avais prévu. » Et en fait, c'est ce dépassement de soi et se dire « J'ai été plus loin que ce que j'avais prévu, je me suis dépassé sur cette série-là ou sur cette répétition-là qui fait que je m'entraîne plus dur. » Au début, il y a plein de méthodes de coaching sur ça peut être la force ou de l'hypertrophie, enfin il y a plein de choses comme ça. Moi, c'est vraiment juste essayer de se dire il faut que je fasse mieux que la semaine passée et il faut que je sorte de ma zone de confort. Donc, tu me croises dans la salle, honnêtement, les gens qui me connaissent vraiment, je discute pas dans la salle de sport. Je viens là pour m'entraîner, faire mon travail et puis repartir. Et vraiment, je suis consciencieuse dans ce que je fais et je me dis, ok, tu termines ta séance et puis tu t'es fier de toi, t'es sorti de ta zone de confort, tu pousses lourd et t'essaies de faire mieux que la semaine passée. Et c'est ça qui m'a permis au final de, je pense, de bien progresser sur pas mal de choses.
Est-ce que tu cycles tes entraînements?
Je cycle mes entraînements en fonction de mes blessures. Parce que coup, je me blesse souvent au genou avec mes luxations, même si c'est moins présent, ça m'arrive encore assez. Je vais pas dire régulièrement, mais de temps en temps. Et du coup, au final, qui dit luxation dit appréhension sur une à deux semaines, l'œdème qui met du temps à se résorber. Donc pour ça que je suis aussi plus forte sur le haut du corps parce que le bas du corps cycle beaucoup, est cyclé par mes blessures. Donc je fais beaucoup de force, mais il y a encore beaucoup d'appréhension sur pas mal d'exercices au niveau du bas du corps.
Mais par exemple, j'imagine que toi, avec ce souci, tous les déplacements qui vont être qui vont amener de la rotation au niveau du genou, tu vas oublier de suite. Des sports comme le basket, comme où il y a beaucoup de reprises d'appui et beaucoup de pivots, Ça, toi, tu peux pas faire, quoi.
Ah non, dès que j'étais petite, de toute façon, parce que ça arrivait vers l'âge de 6-7 ans à peu près, quelque chose comme ça, tous les médecins et puis les chirurgiens qui me suivaient aussi m'ont dit, Maïs, toi, c'est vélo et natation, c'est tout ce que tu peux faire.
Ouais, sport dans l'axe, flexion, extension, en restant le plus droit, sans contrainte latérale.
Ouais. Exactement.
Et t'as pas été opérée alors ?
Si, j'ai été opérée, mais parce que du coup, au final, j'ai beaucoup d'arthrose. C'était une simple arthroscopie pour le moment. Mais tous les ans, ils me proposent l'ostéotomie. Donc, pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est mettre des prothèses au niveau des genoux pour réaxer la rotule. Ils veulent casser, toi, tu connais la TTA. Ils veulent casser la TTA et la remettre en médiane. Donc, en gros, casser une partie de l'os ou alors faire des prothèses totales de hanche. Parce que du coup, ça frotte beaucoup, ça fait de l'arthrose et il y a des petits bouts qui se mettent dans mon genou. Et donc, ça me permettrait et de plus avoir d'appréhension sur beaucoup de mouvements et aussi de limiter la progression de l'arthrose.
Et pourquoi tu le ferais pas, ça ?
Pourquoi je le ferais pas ? Parce que les coordonnées sont les plus mal chaussées. C'est-à-dire que je me dis, là, mon corps est encore fonctionnel, ça va, tu peux attendre ma liste. Et puis, qui dit ostéotomie dit aussi arrêt du sport pendant un bon bout de temps. Avec de grosses cicatrices sur les genoux et en fait je me dis tu peux pas te plaindre actuellement de ce que t'as parce que t'es en bonne santé globalement, t'as juste des le sport que je fais là actuellement est bien, je suis pas basketteuse professionnelle, je suis pas handballeuse professionnelle, donc j'ai pas une nécessité et tant que pour moi c'est pas une nécessité je vais pas le faire. Là, je vis très bien, tu vois. Bon, ça m'embête de temps en temps de faire des luxations, des contusions osseuses, des machins. C'est embêtant, mais je me dis c'est pas très grave. Et tant que pour moi c'est pas grave, je ferai pas la démarche d'eux. Donc à chaque fois je me dis il faudrait parce que du coup d'ici 10 ans peut-être que ce sera encore pire que maintenant. Mais en fait ça m'embête d'arrêter le sport parce que pour moi le sport c'est vraiment vital.
Et si ils te le font, c'est les deux en même temps ? C'est-à-dire que tu vas être obligé de te trimballer avec en chaise roulante ?
Je sais pas du tout. Je sais pas du tout parce que les deux sont au même stade. Il y en a un qui a plus d'arthrose, mais les deux sont au même stade, donc faudrait faire les deux de toute façon. Et sinon, ça veut dire fauteuil roulant. Et moi, je me vois pas du tout en fauteuil roulant. Horrible. Et puis pas d'appui pendant un certain temps, beaucoup de rééducation, etc. Donc c'est pas simple. Hein. C'est un choix qui est très personnel et peut-être que si j'étais pas dans le sport, je l'aurais déjà fait parce que le sport m'a permis aussi de limiter les luxations. Quand j'étais petite, honnêtement, c'était toutes les semaines. Toutes les semaines, je me faisais des luxations, c'était droite-gauche à chaque fois. Là, ça doit être tous les 5 mois à peu près, tous les 5-6 mois.
Ok.
Donc c'est quand même.
Ouais, non, et puis même fauteuil roulant en cabinet.
Je peux pas.
Il te faut une bonne assurance prévention ou je ne sais quoi là si tu veux pas
puis,
perdre.
Les assurances en tant que profession libérale, on va pas se mentir, c'est pas terrible.
Quand j'étais en France, j'étais chez AXA.
Je fais de la pub. Tu leur fais de la pub, c'est ça.
S'ils veulent sponsoriser ce podcast.
Parce que t'as fait tes études où, toi, du coup?
Bordeaux,
ok.
Ouais, COS Bordeaux. À l'époque, c'était le COS, après, ça a changé de nom.
Okay.
Ils ont été rachetés une fois, mais c'était le COS à l'époque.
D'accord,
ok. Collège Osteopathique Sutherland.
Oui, il y a une grosse réforme il n'y a pas longtemps, là, 2016, sur toutes les écoles. en France. 2016,
ouais, bah, j'étais sorti moi déjà, 2016.
Ouais. Ah, juste après alors. Il y a beaucoup d'écoles qui ont fermé.
Non, j'étais pas sorti, c'était à la fin, je crois. C'était la fin où effectivement, d'ailleurs, il y avait une école concurrente qui était à Bordeaux aussi, qui avait dû fermer, qui a ensuite a réouvert, mais parce que au moment où elle a dû fermer, c'est parce qu'elle respectait pas les, il y avait quelques trucs dont elle avait pas les trucs, enfin
les critères.
Les critères, voilà. Alors sur ses genoux, qu'est-ce qui a fait que tu fais beaucoup moins de luxation finalement. Est-ce que c'est d'abord renforcer les quadriceps, les ischio-jambiers, les fessiers? Est-ce que tu as un petit feedback personnel sur ça?
Ouais, c'est totalement ça, parce que je savais que le kiné m'avait dit il faut que tu muscles tes quadriceps, et ça avant même que je connaisse l'anatomie, parce qu'il m'avait dit les quadriceps c'est ce qui te permet de maintenir tes rotules. Donc tant que tu n'auras pas des quadriceps qui sont musclés, bah tu feras des luxations à répétition. Donc en fait j'avais commencé aussi la salle de sport pour ça, pour me dire le kiné ça fonctionne, mais ça me gave, je mets entre guillemets, d'aller chez le kiné toutes les semaines pour qu'il me fasse quelque chose que je peux faire par moi-même. Donc je m'étais inscrite en salle de sport, et du coup au début je faisais beaucoup d'exercices de renforcement au niveau des jambes, et puis après je me suis dit Mélis, quand même c'est bien de faire les jambes, mais c'est aussi bien de travailler tout le corps et d'être la plus polyvalente possible sur ton corps. Donc c'est pour ça que j'avais fait tout le corps après, mais qu'au début j'étais vraiment axée sur le bas du corps, donc renforcement quadriceps et ischio-jambier, et au final ça a très très bien fonctionné, puisque comme je te le disais, je suis passée de une luxation par semaine à deux luxations par an. Donc
oui, tout ça est beaucoup mieux maintenu, c'est beaucoup plus solide, donc
ouais, mais après du
c'était,
coup
c'était après. Luxation externe, excuse-moi,
luxation sur la rotule externe. Ouais, toujours, et j'ai eu la chance, et là je touche encore du bois, c'est qu'elles sont toujours revenues. C'était pas des luxations totales, c'est des luxations qui vont très loin. Ouais, c'est ça. Donc elles se remettaient toutes seules, et puis y a juste que je tourne à la pomme à chaque fois, quoi. Donc
c'est marrant ça. Pour quelle raison? Ça fait mal, ou c'est la peur?
Je pense que c'est mon corps qui de par une trop grande douleur, ou peut-être un gros stress, fait que je tombe dans les pommes. En fait, j'ai toujours cette sensation où je fais l'effort, qu'importe l'effort que ce soit, je sens que ça se dérobe, j'ai un trou noir, et puis je me réveille, et puis il faut que je reste... en fait, en général, je passe d'une position, par exemple, debout, à une position couchée sur le côté, puisque ma jambe se dérobe, et je peux plus bouger ma jambe pendant un certain temps, pendant, on va dire... une minute, on va dire, le temps que je reprenne conscience de la proprioception, de où est-ce que mon articulation dans l'espace, comprendre comment est-ce qu'elle est, gérer la douleur, et puis au final, une minute après, je pourrais reprendre appui dessus. Il faut juste que je glace, que je mette de l'arnica. Maintenant, je connais le protocole pour bien récupérer, mais ouais, j'ai un trou noir à chaque fois sur ces mouvements-là.
Est-ce que tu as eu d'autres blessures pendant le sport, ou d'autres
blessures graves? Non. Honnêtement, c'est que j'ai vraiment eu des luxations. Ouais, c'est ça. J'ai
et
jamais
le fait
eu
que tu fasses autre. T'as jamais... Ouais,
j'en ai déjà eu suffisamment.
Fracture non plus.
Non plus.
Le fait que t'es donc la rotule qui part surtout à l'extérieur, enfin qui se fasse une luxation externe, et tu m'as dit donc la tête tibiale est un peu désaxé, c'est ça, et pas vraiment axé par rapport au fémur, et c'est la raison pour laquelle
Ouais, c'est ça, parce que du coup, comme ma rotule, elle a tendance à beaucoup partir vers l'extérieur, en déplaçant donc la tuberosité tibiale antérieure, la petite bosse que vous avez devant le genou, en la remettant un petit peu vers l'intérieur, ça permettrait de réaxer la rotule plus vers l'intérieur, et du coup éviter qu'elle se déporte trop vers l'extérieur. Parce qu'en fait, toi tu connais un petit peu l'anatomie, mais du coup la crête mousse en dessous, que j'ai en dessous, enfin qui est censée être en dessous de la rotule, j'en ai pas. C'est tout plat en fait. Donc c'est pour ça qu'elle.
Pourquoi? C'est quoi,
malformation? Ouais, c'est ça. Malformation. Du coup au final, elle tient pas, et dès que j'arrive à 20. Je sais plus combien est-ce que c'est, 20 degrés, je dirais, de flexion de genou. C'est là où ça tient pas, et c'est là où ça peut sortir et glisser sur le condyle du fémur. Donc je sais qu'il y a un angle qui m'est très défavorisant sur pas mal de mouvements.
Ok. T'as appris à bien connaître tout ça, quoi. Et puis les études aussi, je pense que ça t'a aidé. Quand t'étais sur l'anatomie du genou, t'as dû être très focus à ce moment-là.
Ouais, c'est passionnant, très très passionnant, parce que du coup j'ai compris aussi des choses qui m'ont permis de.
D'arriver.
Ouais, c'est ça exactement. Bon, après, l'explication du trou noir après mes luxations, je l'ai pas, mais...
Si quelqu'un ouais. veut donner la réponse en commentaire, faites
c'est ça.
Renforcer le chef interne, ça c'est quelque chose que tu as pensé aussi ou et que tu as peut-être essayé, est-ce que ça a marché, pas marché, tu sais, pour essayer de tirer un peu vers l'intérieur. Ouais. Je sais pas, c'est très théorique hein, après si en pratique, je sais pas si ça fonctionne.
C'est difficile d'isoler un chef musculaire quand c'est par exemple le quadriceps, quand c'est ischio ou fessier, tu vois, c'est plus facile. Quand c'est juste un chef musculaire d'un groupe musculaire donné, c'est plus compliqué et moi j'ai beaucoup d'appréhension sur bah, par exemple, le leg extension, je sais pas si ça te parle, ce mouvement-là. J'ai beaucoup d'appréhension parce que je me dis, si je fais mal le mouvement, parce qu'il y a un moment donné où tu passes les 20 degrés, et si là, je suis pas bien concentrée sur le mouvement, bah, ça se luxe, sauf que, bah, j'ai qu'un autre genou pour maintenir, et du coup, bah, j'ai peur de, que ça se retourne, que machin, donc ça me fait très peur de pousser lourd sur ces mouvements-là, donc cette appréhension fait que aussi je peux pas pousser lourd et pas plus musclé que ce que je voudrais. Donc tu vois, j'aimerais bien faire de l'haltérophilie, j'aimerais bien faire plein d'autres sports, mais que je peux pas faire à cause de ça.
Donc alors tes perfs, on en a parlé un petit peu là, 80 kilos au développé couché, au squat.
Bah au squat, tu vois, je stagne du coup. Bah je tourne aux alentours des 95 kilos à peu près. Mais du coup au final, beaucoup, ça me bah c'est pas beaucoup parce que tu vois par rapport à mes performances
c'est beaucoup j'ai dit c'est beaucoup
non c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup
ah ben bah, moi je te dis que c'est pas mal déjà
ouais mais je sais que je pourrais pousser beaucoup plus lourd mais comme bah j'ai des blessures de temps en temps et comme j'ai beaucoup d'appréhension je sais que je pourrais pas pousser aussi lourd que ce que je voudrais alors que je sais très bien que je pourrais pousser plus lourd mais comme bah j'ai peur d'eux je me freine.
Je comprends, ouais. Et voilà. les autres mouvements
Bah, par exemple, tu vois, le soulevé de terre jambes tendues, là, je peux pousser beaucoup plus lourd parce qu'il n'y a pas de mouvement de flexion de hanche. Tu sais, t'as juste la barre et tu la fais descendre le long de tes fémurs puis tes tibias et tu la remontes. Bah, celle-là, tu vois, j'arrive à être à 130 relativement facilement. Parce que, du coup, il n'y a pas de tension au niveau du genou, il n'y a pas de stress au niveau du genou. Donc ça me fait pas peur. Le hip thrust, pareil, j'arrive à mettre beaucoup plus lourd que du squat. Mais le squat, il y a la flexion de genou. Du coup, dans ma tête, même si mes genoux sont dans l'axe, je me dis, Malice, il y a quand même un risque que tu te blesses. Et, bah, au bout d'un certain poids, tu te dis, bon, ok, c'est 90 kilos, mais t'imagines si t'as 140 kilos sous la barre, enfin, si t'es sous la barre à 140 kilos ou plus, bah, les conséquences seront pas du tout les mêmes. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours cette appréhension et cette petite voix dans ma tête, même si j'en ai pas forcément conscience, il y a toujours cette petite voix qui te dit fais attention parce que là tu peux te blesser et si tu te blesses, bah là c'est vraiment pas drôle.
Tes points forts, tes points faibles physiques, tu les connais bien?
Bah point fort les pecs, clairement, enfin tout ce qui est mouvement de poussée, pecs et épaules, ça c'est vraiment mes points forts et points faibles c'est les quadriceps, sans hésiter.
Mais
je suis limitée. Pas... Si, je suis limitée. C'est le cas de le dire. Je suis limitée parce qu'il y a l'appréhension et il y a la peur de. Je m'en cache pas. Je sais que j'ai peur et.
Voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est ça qui te limite. C'est pas un point faible musculaire ou par exemple, c'est le muscle qui ne voudrait pas grossir malgré tous les entraînements que tu fais parce que justement, tu ne peux pas lui faire tous les entraînements que tu devrais lui faire faire.
Ouais, ça c'est exactement.
Ok. Je voulais savoir parce que attends, je m'étais noté ça là. Juste pour revenir un peu sur l'ostéo, je me suis noté dans les petites footnotes là sur le côté. Je pense que tu peux pas les voir. Il y a que moi.
Non, je les vois pas.
Tu m'as parlé d'un compte Instagram que tu voulais faire sur certaines citations ou des ce que t'avais dit des
ouais,
patients,
j'avais dit ça,
qui
ouais.
était assez marrant. Est-ce que t'as un best-of là, un truc pour me faire rire?
Un best-of. Bah, ouais. J'ai fait mon mémoire sur. Je me rappellerai toujours de cette anecdote-là. J'ai fait mon mémoire sur l'étude posturale en post-opératoire pour les patients opérés d'un hallux valgus. Et du coup, ben, plusieurs fois, j'ai fait une étude expérimentale, donc j'avais des patients et je leur ai demandé un petit peu quel était leur type de chirurgie, etc. Et honnêtement, j'ai eu 2-3 fois les patients qui m'ont dit qu'ils avaient été opérés d'un hallux valgus. Et du coup, ça m'a fait rire plusieurs fois, mais j'ai eu pas mal de petites pépites comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à te raconter? Je sais plus. Je sais plus. J'avais tout noté, mais ça m'est sorti de la tête. Mais il y a des patients parfois. Ma sœur, elle me sort toujours, et ça va te faire rire aussi. T'as la hernie inguinale, donc qui est le terme classique. Et ma sœur, toujours, elle me sort, elle écoute ce podcast, elle va me détruire, la hernie linguinale. Et je lui dis à chaque fois... À chaque fois, elle bug sur le mot, elle me regarde, elle me dit, je sais plus si c'est ça. Et ça me fait rire à chaque fois.
Il y a un L de trop.
Ouais. Et toi, c'est quoi les meilleures pépites de patients que tu as eues?
Je t'avoue que récemment, j'en ai pas beaucoup. J'en ai même très peu. Ou en tout cas, je m'en souviens pas. Celle que je crois que j'avais racontée, c'était sur le podcast avec Paul Mathieu. Lui m'en avait donné une. C'est quoi, je vais pas le dire. Pour ceux qui l'ont pas écouté, allez écouter l'épisode avec Paul Mathieu. Il donne un exemple assez marrant de truc qu'il a eu. Je crois que j'en avais raconté une qui était le fracture du périnée au lieu de péroné.
Ah, je l'ai eu celle-là aussi. Elle était pas mal.
t'es obligé de te visualiser la violence que doit être une fracture du périnée.
Ouais, c'est ça.
Au moment où elle te sort ça et après tu, ah, putain,
c'est... Et tu dis, je peux pas rigoler, c'est impossible. Et ouais,
après ça dépend le niveau de confort que tu peux avoir avec ton patient parce que je pense que j'aurais un truc comme ça aujourd'hui avec quelqu'un avec qui je m'entends bien, enfin que je m'entends bien, tu vois, que qui est pas trop timide, pas trop bonjour. Je pense que je rigole, je m'en empêche pas.
Ouais.
Parce que forcément c'est marrant et le fait de se retenir, ça serait tellement douloureux. C'est de serrer les dents parce qu'après t'écoutes plus pendant les 30 prochaines secondes quand
tu racontes
le truc, tu n'écoutes plus, t'arrives plus à te concentrer. Donc je pense que rigoler un tout petit peu et dire non c'est pas périnée, c'est péroné,
c'est ça.
Périnée, c'est pas là, voilà, c'est bon, tu l'as, ok, c'est bon. On va passer à la suite.
Ouais, c'est génial. Ouais, les patients, c'est drôle, mais c'est pas de leur faute, tu vois, mais ça me fait mourir de rire quand tu connais bien l'anatomie et que sur des petits mots comme ça il y a un petit malentendu. Bah, ça donne du peps à la consultation, comme on dit.
Comment ça se passe une consultation chez toi, si on vient de voir, est-ce que tu poses beaucoup de questions, est-ce que tu
comment
t'es cool,
est-ce que...
t'es relax, t'es sérieuse, comment tu te présentes?
Déjà moi je mets de la musique dans mes consultations, j'ai toujours un fond musical parce que je me concentre beaucoup sur la musique quand je pratique. Je fais beaucoup de tissulaire, hein. Malgré ce qu'on pourrait penser, je fais quand même beaucoup de tissulaire. Donc je me focalise beaucoup sur la musique. Après j'ai une patientèle qui est très jeune, donc je me focalise un petit peu moins sur ou même s'il faut toujours écarter les drapeaux rouges, etc. Je pose beaucoup de questions, mais je reste beaucoup sur l'aspect santé. Moi, je demande comment se passe le sommeil, comment se passe la digestion, est-ce qu'il y a des horaires particuliers au niveau des réveils nocturnes, etc. Donc, je reste vraiment très ostéo, mais aussi fitness, tu vois, pour essayer de comprendre et d'allier les deux. Et ouais, honnêtement, mes anamnèses, elles sont terminées en 10 minutes. Et après, il y a beaucoup de... J'essaie de beaucoup mettre à l'aise le patient parce que y en a beaucoup qui sont pas du tout à l'aise de se mettre en sous-vêtements. Genre quand je leur dis tu termines l'anamnèse et tu leur dis bon maintenant vous passez en sous-vêtements et puis on va démarrer la consultation.
Tu les fais mettre à chaque fois en sous-vêtements ?
À chaque fois, ouais. Moi quand on me dit je veux pas me mettre en sous-vêtements, je dis mais écoutez, je prendrai toujours l'exemple d'un de mes professeurs qui m'a raconté une anecdote et c'est pourquoi je mets toujours les patients en sous-vêtements. Il m'a dit une fois en consultation qu'il avait réussi. Enfin, au fur et à mesure de la consultation, il s'est dit la qualité de la peau est quand même bizarre. Et en fait, il s'est souvenu que une peau cartonnée, c'est un cancer de la peau. Et il m'a dit ce jour-là, j'ai sauvé un patient en lui diagnostiquant, enfin pas parce que un ostéo peut pas diagnostiquer quelque chose, mais en lui disant écoutez, là il y a quelque chose qui va pas sur votre peau. Il faut que vous alliez voir le médecin. Et c'était quelqu'un qui n'allait pas du tout voir le médecin, qui prenait entre guillemets pas soin de sa santé et qui du coup allait juste voir l'ostéo parce que à l'occasion, il avait mal au dos. Et là, en fait, il lui a sauvé la vie en regardant sa qualité de peau et en lui disant, écoutez, là, il y a quelque chose qui va pas, allez voir votre médecin. Et du coup, je me suis dit, il faut absolument que je déshabille mon patient pour voir un petit peu la qualité de sa peau, pour voir comment est-ce qu'il prend soin de lui aussi, parce que c'est tout bête, mais quelqu'un qui va avoir de grosses contusions, qui va avoir une peau qui va être très blanche ou des bleus ou beaucoup de verrues, beaucoup de champignons, tu vois, tu vas comprendre beaucoup de choses aussi sur son état, sur son histoire tout simplement. Et moi, je trouve que en fait, juste de par la peau, tu sais tellement de choses sur le corps humain que que moi, quand on me dit, écoutez, j'ai pas envie de me mettre en sous-vêtements, je dis, je comprends totalement parce que c'est justifié. T'as pas envie de te mettre en sous-vêtements, t'as peut-être pas les sous-vêtements que t'as envie ou t'as peut-être pas ton caleçon fétiche. Mais je dis, je suis pas là pour vous juger. Moi, les patients, j'en vois tous les jours à poil. Je suis juste là pour comprendre votre corps et voir ce qui va et ce qui va pas. Si je vous vois pas, bah malheureusement, je peux pas tout comprendre. Et moi, je travaille avec mes mains, donc j'ai besoin de sentir vos mains. Si je sens votre jean, je vais traiter votre jean et ça sert à rien. Mmh. Donc en fait, en leur expliquant que je suis pas là pour les juger, que je vois des gens en sous-vêtements tous les jours, ils comprennent beaucoup les choses. Et au final, il y a des gens qui, en me disant, bah, par exemple, c'est de plus en plus, je sais pas pour toi, mais bah écoutez, j'ai pas soutien-gorge aujourd'hui. Je dis bah écoutez, moi ça me gêne pas. Si vous êtes à l'aise vous sans soutien-gorge, moi ça me pose pas de souci. Je suis là pour vous traiter, je suis pas là pour regarder vos seins et juger le pourquoi du comment. Je suis simplement là pour essayer que vous alliez mieux et ouais, faire que vous alliez bien quoi. Je suis pas là pour dire oh là là, elle a des petits seins ou oh là là, elle a des petites fesses. Tu vois, je suis là juste pour traiter le patient et faire qu'il aille mieux, pas pour lui dire j'aime pas ta culotte quoi.
Mm. ça pourrait être marrant, c'est une fois en sous-vêtements. Oh, j'aime pas votre culotte, madame. Sortez ouais, mon capi.
Elle est pas ouf, celle-là. Non, mais je fais pas mal de petites blagues, par contre, sur les chaussettes, parce qu'en général, les patients, ils arrivent avec des chaussettes, trouées ou à l'envers, ouais, ou dépareillées.
Pas de même couleur, ouais.
C'est ça. Donc, non, je fais pas mal de petites blagues pour mettre à l'aise le patient, mais j'essaye justement de les remettre en confiance, parce qu'il y en a beaucoup, et je trouve de plus en plus qui ont peur de se mettre en sous-vêtements et peur du jugement des autres.
Mmh. Tu me disais patientèle jeune, patientèle fitness aussi beaucoup. Est-ce que tes réseaux te ramènent? Tu m'as dit que tu avais pas mal de jeunes dans ton cabinet.
Oui. Ah oui,
Est-ce que c'est une patientèle due au fitness? Est-ce que le fait d'avoir un réseau, est-ce que ça te ramène des gens au cabinet d'avoir ton compte Instagram comme ça ou d'être visible sur les réseaux?
Ouais, ça m'en a ramené quelques-uns. Oui, ça m'en a ramené quelques-uns. Ouais. Je vais pas te cacher, c'est une très très faible minorité de patients. Mais c'est vrai que le fait d'avoir une visibilité, les gens se disent, elle fait du sport, du coup, elle, vu que moi j'en fais aussi, elle va plus comprendre ma pathologie et mes mots, parce que les médecins, enfin. C'est bête à dire, mais les médecins d'aujourd'hui, ils connaissent pas forcément tous le sport. Et quand on leur dit « j'ai mal au genou » et qu'on fait déjà du sport, ils vont nous dire « va faire du sport ». Je dis « mais je fais déjà du sport » où ils comprennent pas forcément nos mots parce qu'ils sont pas dans le domaine du sport. Et comme moi, j'ai travaillé avec des sportifs, que ce soit en études d'ostéo sur de différents événements ou de par ma pratique, de par mes formations, j'ai compris beaucoup de choses et ça me permet aujourd'hui de prendre en charge de manière plus globale les patients sportifs.
C'est quoi ta vision de l'ostéo? C'est quoi ta pratique? Tu m'as parlé un peu tissulaire, un peu de structurel. Est-ce que tu es spirituel aussi? Est-ce que je me moque pas, hein, je rigole nerveusement mais comment tu vois ta pratique?
Comment je vois ma pratique? Je vois ma pratique. Alors, je suis très très trust sur tout ce qui est rachis, donc dorsal et thoracique, enfin dorsal et lombaire. Après, tu vois, au niveau du bassin, je trouve que le trust, par exemple, c'est trop traumatisant. J'ai une approche qui est, on va dire, au-dessus des épaules, je suis très tissulaire. Beaucoup de biodynamisme au niveau du crâne. J'ai beaucoup de très bons résultats au niveau du crâne. C'est
le crânien, alors.
Beaucoup, beaucoup de crâniens.
Ok, on va arrêter ce podcast de suite.
Tu fais pas de crâniens, c'est vrai?
Non, pas souvent. Non, mais je plaisante, parce que je fais exprès des fois pour rigoler de faire un clivage entre le crânien, le truc, mais en réalité, c'est pour rire. Ça m'arrive, pas souvent, et c'est surtout, c'est vraiment autour de ces zéros, quoi.
D'accord, pas du tout sur l'intérieur
très
de la bonne.
Je sens pas les choses, ça me fait chier, y a trop de choses, et peut-être que je me suis trop aussi auto-convaincu que ça me faisait chier, ouais. Et alors j'aime pas, et j'y vais rarement parce que j'aime pas.
Ouais, bah oui, mais faut faire une pratique. Si t'as des bons résultats autour, enfin, il y a un exemple qui est tout bête, j'avais un prof à l'école qui faisait uniquement du crânien, mais quand je te dis uniquement du crânien, c'est-à-dire qu'il traitait la cheville à partir du crâne. Et moi, je me suis dit, mais c'est impossible, tu vois, genre, tu peux pas traiter une cheville avec, en étant au crâne. Et si. il a de très très bons résultats et les patients reviennent quasiment jamais parce qu'ils sont toujours satisfaits de lui, ou quand ils reviennent c'est pour d'autres mots. Donc je me suis dit, si bah par exemple tu vois j'aime pas qu'est-ce que j'aime pas trop, enfin il y a des trucs que j'aime pas trop travailler en ostéo, et du coup comme tu les travailles moins tu les aimes moins et donc tu les pratiques pas et du coup t'es moins bon dans cette technique là et moi il y a des trucs je sais que bah, j'aime pas travailler, du coup je préfère travailler différemment. Je sais que j'aurai de meilleurs résultats ou que j'aurai des résultats qui seront bons sur cette technique-là, et ce qui me permettra d'avoir un traitement ostéopathique qui sera optimal dans le temps. Donc je me dis, ça sert à rien de m'embêter sur une technique que j'aime pas. Genre par exemple un truc tout bête, comment ça s'appelle ? Oh, j'ai oublié le nom. Tu vois, je sais même plus. T'as le tissulaire et t'as le les techniques respiratoires. Ça, ça vous parle pas forcément. Ça, c'est un truc, ça me parle absolument pas. Les techniques respiratoires. Quand on faisait ça à l'école, j'étais là, je l'ai regardé, j'ai dit mais écoute. C'est, tu brasses de l'air et ça sert à rien. Ça, c'est un truc, tu vois, j'ai jamais fait parce que à l'école, ça me barbait. J'essayais de les faire un petit peu en consultation au début de ma pratique. Je me suis dit, il faut pouvoir avoir ton bagage, tout savoir faire.
T'as un exemple parce que je suis pas sûr d'avoir exactement le même concept que toi sur les techniques respiratoires.
Les techniques respiratoires, tu sais, c'est tu demandes aux patients d'inspirer, de faire une apnée inspiratoire, ouais. Et puis il expire. Par exemple, tu prends les têtes fibulaires tu prends la fibula et tu lui demandes d'inspirer, tu bloques et tu fais ça, etc. Donc c'est vraiment avec la respiration. Okay.
D'accord. Alors c'est vrai que si c'est au niveau du tibia, non. Tout ce qui va se passer sur l'orifice supérieur du thorax, je m'en sers pas mal, mais parce que il y a un impact de contiguïté aussi.
C'est ça. Là, c'est intéressant. Mais par exemple, tu peux faire le sacrum en technique respiratoire. Tu vas lui demander de se mettre sur le côté gauche, d'expirer, de bloquer, de se mettre sur le côté droit et t'accompagne le mouvement du sacrum. Et ça, honnêtement, ça me barbe. Je préfère les faire en énergie musculaire ou en trust, qui va aller 10 fois plus vite, plutôt que le patient, surtout que j'ai une patiente telle qui est très sportive, tu lui dis, okay. Oh, alors, vous allez prendre votre petite inspiration, tu vois, et il va me regarder, il va dégoûter, là, madame, ça va pas le faire. Vous allez y aller un petit peu plus de manière tonique. Donc, non, c'est pas des techniques qui me parlent, et c'est, là, je te rejoins totalement sur ce que tu disais, c'est que si c'est un truc qui te parle pas et auquel tu ne ressens pas les choses, qu'il y en a qui ressentent pas les mouvements du crâne, passe ton chemin et si t'as de bons résultats, tant mieux. Hein, tu vois ce que je veux dire? C'est ce que j'explique aux patients, c'est qu'il y en a qui, et je pense toi aussi c'est le cas, c'est que des patients qui arrivent en consultation et qui disent je veux pas que ça craque, ou au contraire je veux que ça craque. Je dis écoutez, moi je m'en fiche de ce que, enfin je m'en fiche des techniques que je vais utiliser pendant la consultation. Moi j'ai un panel de techniques. En gros j'ai ma table à outils qui est à côté de la table. Je prends les outils que vous voulez pour faire ma technique. Si la technique que j'aime pas, je les fais pas, je les fais autrement et puis voilà. C'est être le plus polyvalent possible sur les techniques.
Ouais ouais. Et tu te sens des fois un peu partir dans des choses inexplicables.
Ouais. Bah tu le vois parce déjà par le podcast.
Jusqu'à là, ça va quand même. Tout reste les pieds sur terre, je trouve. Mais t'as nommé à un moment donné, en parlant du crâne, le biodynamisme ou biodynamique. Je me suis dit, attention, où c'est qu'on va là?
Mais en fait, je sais pas si tu connais ou pas du tout, parce que du coup,
connais un peu, mais ça m'intéresse pas du tout. Enfin, ça m'intéresse pas. Ça m'attire pas, on va dire. Ouais. C'est intéressant. Je regarde ça de loin. Je suis là, ok, d'accord, très bien. et si on me dit, et toi, tu veux? Non. Moi, c'est bon. C'est intéressant, mais de là où je suis.
C'est ça. Ouais. Le biodynamisme, c'est vraiment tout ce qui est les fluides dans le corps, faire bouger les fluides. Donc, t'as la technique articulaire où t'as tes mouvements respiratoires crâniens, tes temporaux qui font ça, par exemple. L'idée ici, c'est de faire bouger les fluides, tu vois, d'un côté à l'autre. Tu vois, c'est de suivre la biodynamique du corps, et de comprendre un petit peu comment est-ce qu'il bouge. Après, bien évidemment, si t'es pas réceptif aux techniques crâniennes, ça, laisse tomber, tu seras pas du tout réceptif à ça. Mais, en fait, je le fais pas forcément en systématique, je le fais beaucoup pour les patients qui sont stressés, ça les apaise beaucoup. C'est des techniques qui sont parasympathiques, donc beaucoup de bons résultats par rapport à ça. Mais par exemple, tu vois, sur ce genre de technique, moi je suis quelqu'un qui explique beaucoup les choses pendant les consultations. Je vais toujours expliquer tout ce que je fais, quitte à prendre 5 minutes de plus ou 10 minutes de plus à la fin de la consultation. Mais moi, je sors jamais. Enfin, les questions que je pose toujours en fin de consultation, c'est est-ce que vous avez compris ce que j'ai fait? Est-ce que vous avez des questions? C'est les deux premières choses que je ressors, parce que par exemple, moi j'ai des gens qui me disent j'ai été voir l'ostéo aujourd'hui. Je dis il t'a fait quoi? Je sais pas. J'ai dit mais il t'a pas expliqué ce qu'il a fait l'ostéo?
Après, non, Ouais, je suis d'accord avec toi. Expliquer, c'est hyper important. Il y a quand même une toute, il y a une partie de la population qui en a strictement rien à branler. Bon, moi, ça me fascine, parce que c'est, ils connaissent rien et c'est non, vas-y, fais tes trucs. Moi, tant que je vais mieux, je m'en branle de comment je suis fait. Mm. Bon, ça arrive. C'est curieux.
Ouais, hein. Ouais, mais moi, je même si c'est parce que
tu te fais un point d'honneur à expliquer quand même dans tous les
cas. Pour moi, c'est important que le patient il sache au moins ce qu'il a eu, même s'il s'en fout et que deux minutes après il a oublié. Au moins, moi, j'ai fait mon travail, parce que mon travail c'est aussi d'expliquer ce qui va pas. Enfin, je pense que c'est ça qui est important aussi, c'est de lui dire, écoutez, là il y a ça qui va pas. Bah, on a travaillé là-dessus. Si vous vous en fichez et que vous pouvez passer à autre chose après, moi, ça me pose aucun souci. Mais juste, au moins, je vous expliquais les choses et vous savez ce que vous avez. Ça vous importe, peu importe, mais au moins, vous savez ce que vous avez.
OK. Pour ceux que ça intéresse, là, les discussions qui sont, parce qu'on va passer sur autre chose, sur l'ostéopathie, patient praticien, un peu comment on voit la pratique de l'ostéo. J'avais fait un épisode, je renvoie les auditeurs à écouter l'épisode 50 que j'ai fait avec David Keane, où on parle quasiment de ça, hein. C'est notre vision de thérapeute et comment, en fait, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière les coulisses lorsque vous allez voir un ostéo, comment on pense, comment on réfléchit, quels sont les obstacles, les freins, les questions qu'on peut se poser. C'est, je renvoie cet épisode qui est pas le plus connu parce que c'est pas un influenceur. David Keane, c'était pas mal. J'avais enregistré aussi un épisode avec, un vieil épisode parmi les premiers avec un ancien camarade de Thomas Desroux, épisode numéro 9, là aussi on parle un peu d'ostéo. Épisode 23, David Ferreira, lui qui est kiné-ostéo, donc on avait parlé aussi pas mal. Et puis un épisode qui est sorti beaucoup plus récemment, le 87, donc il doit être peut-être celui de, je veux pas celui de la semaine dernière, je suis pas certain, hein. Allez regarder le 87, mais c'est pas certain de dans quel ordre je les sors, avec Delgis Garcia. Mais en tout cas, il sera sorti, ça c'est sûr. 87, c'est un chiro. Donc, on parle chiro, ostéo, hyper intéressant aussi. Est-ce que c'est tous des gros bourrins en train de faire craquer et de démonter les trucs? Voilà, je laisse la question en suspens comme ça. Et allez écouter l'épisode si ça vous intéresse. Est-ce que toi, le fait de pratiquer la musculation, d'être dans le coaching aussi, ça t'aide dans tes consultations ostéo? Est-ce que tu sens que ça t'a apporté une vraie plus-value dans ton ostéo, ou tu détaches vraiment ça dans ta thérapie différente du coaching?
Ça m'a aidé au début. Maintenant, j'essaie de faire le détachement entre les deux. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que j'aime bien pouvoir avoir un détachement entre ma vie, je vais pas dire professionnelle, parce que mon coaching et mon activité sur les réseaux reste un travail professionnel aussi, mais j'ai envie de pouvoir garder un détachement entre l'ostéopathie et le fitness, parce que pour moi c'est deux choses qui sont complémentaires, mais c'est deux choses que j'aime bien quand même dissocier et me dire que ma matinée, enfin, parce que moi je travaille matinée en ostéopathie et l'après-midi en coaching, c'est de me dire le matin c'est dédié à l'ostéopathie, je suis Maëlys l'ostéopathe, et l'après-midi, je suis Maëlys, la coach sportive qui fait ses activités avec ses élèves ou sur les réseaux sociaux. Donc, j'essaie d'avoir un maximum de détachement. Au début, je m'en servais beaucoup et j'essaie de mélanger les deux en donnant des conseils, en se faisant ce genre de choses. Mais je me suis rendu compte que c'est pas que ça me desservait, mais que j'avais besoin d'avoir un détachement entre les deux.
Pour quelle raison, toi, d'un point de vue de ta pratique, ça te faisait chier de faire les deux, ou alors c'est les résultats n'étaient pas
Les deux, parce que les résultats n'étaient pas là, et puis au final, je préférais dissocier les deux. J'aime bien avoir, j'aime bien que tout soit carré, et j'aime pas mélanger les choses. Donc, il y a la partie ostéo et la partie coaching, et c'est deux choses qui sont différentes. Et c'est pour ça que quand on me pose des questions, j'aime beaucoup donner des conseils fitness, santé, en consultation ostéo, mais je leur dis, mais c'est pas mon rôle, c'est Je suis coach sportif, mais c'est pas mon rôle de vous donner des conseils sur la nutrition là actuellement.
Là actuellement, dans ce cadre de cette consultation.
Ouais, c'est ça. Je lui dis, si vous voulez un coaching, on peut en discuter. Vous avez mon numéro de toute façon. Mais l'objectif de la consultation ostéo, c'est de parler des conseils globaux en ostéopathie et pas parler de nutrition et de dérivés, parce que imaginons que poissonnière, je vais pas pendant la consultation d'ostéo lui dire vous voulez du mérou ou de l'encornet à 4 heures, tu vois. Non mais c'est ça, tu vois.
24 grammes de protéines aux 100 grammes.
C'est ça. Non mais j'essaie d'avoir quand même un détachement sur ces sujets-là.
T'as déjà pensé à je sais pas créer un concept qui n'existe pas, je crois, aujourd'hui. Alors, si ça n'existe pas, c'est peut-être parce que ça ne marcherait pas, mais je te demande. Entre ostéo et coaching, de se dire d'avoir une espèce de pack où à la fois tu vas les accompagner sur de la posture et puis sur leur transformation physique, d'avoir une espèce de, tu vois.
J'y ai pensé, mais je me suis dit c'est trop compliqué parce qu'il faudrait faire que du suivi personnalisé. Et moi, c'est en ligne que je le fais. Donc, faire des diagnostics en ligne.
Ah, tu fais que du coaching en ligne.
Ouais, c'est ça. Alors que si je faisais du coaching personnalisé en one-to-one, là, je suis d'accord avec toi, ça pourrait être intéressant. Mais après, enfin, c'est ce que je faisais dès que je suis sortie de l'école, en fait, j'ai intégré une salle de sport et je faisais beaucoup de bilans sportifs, mais juste des bilans sans traitement, d'accord? Parce que en fait, dans le contrat que j'avais avec la salle de sport, je louais le local un petit peu moins cher, donc je pouvais avoir les patients que je voulais, mais en contrepartie, des bilans un petit peu moins chers. Les clients du coup de la salle de sport avaient un bilan sportif, c'était une fois par trimestre ou quelque chose comme ça. Et moi, en fait, ce que je leur posais simplement comme question, c'était comment est-ce que vous allez ? Je faisais un bilan des articulations, de tout ça, de la posture. Et je leur disais ce qui allait ou ce qui allait pas. Et en fait, ce qui m'embête, c'était de la frustration en me disant « je sais ce qui va pas ». Et du coup, je leur dis « maintenant, si vous voulez aller mieux, vous faut payer, tu vois ». Et c'est juste le… Non, mais c'est vraiment ça.
Non,
et,
mais oui,
et...
oui, mais c'est ça, c'est la façon dont tu le dis qui me fait rire, mais c'est
ouais, et du coup… Au final, là, c'était des patients en réathlétisation qui n'étaient pas forcément vraiment dans le monde du fitness, qui n'avaient pas forcément en plus les moyens. Donc, je savais que c'était du temps que je perdais à faire de la consultation juste en posturologie. Et, et du coup, au final, ça m'a, je ne veux pas dire dégoûté de la posturologie, mais un petit peu dans le sens où maintenant, faire des analyses posturales, j'en ai un peu ras-le-bol. Enfin, même je pense aussi, toi, que je me trompe peut-être, mais moi, quand je marche dans la rue et que je vois des gens marcher en face de moi, je les analyse déjà toujours parce que j'ai mon regard d'ostéo qui me dit tu vois, il y a le moyen fessier là qui va pas, ou t'as un ballon des bras qui est pas harmonieux de chaque côté. Du coup, j'ai déjà au quotidien cette analyse posturale. Donc je me dis, si en plus de rajouter une analyse posturale dans ma routine ostéo, sachant que j'ai déjà mes tests en ostéo, mais que je dois faire un truc en plus du coaching et du coup mélanger les deux, je me dis, je vais pas m'en sortir et je préfère justement avoir un détachement par rapport à ça.
D'accord. Est-ce que t'as des projets à venir sur tout ça, le coaching, l'ostéo? Est-ce qu'il y a des trucs qui vont bientôt voir le jour?
Ouais. Du coup, l'ostéo. Donc là, je faisais un petit peu. Enfin, principalement le matin et un petit peu l'après-midi. Donc là, normalement, j'ai trouvé quelqu'un pour me remplacer l'après-midi, donc pour faire une assistante, tout simplement, pour m'aider sur les après-midi. Donc ça va être déjà cool. Ça va me permettre de me délester un petit peu du temps, parce que si je fais les allers-retours au cabinet, il faut arriver avant le patient, il faut préparer la salle, il faut nettoyer, etc. Donc ça me prenait beaucoup de temps. Et donc ça, en ostéo, j'aimerais bien refaire des formations un petit peu sur tout ce qui est viscéral, notamment... Racine du mésentère, ça doit te parler, mais peut-être que les autres, ça leur parle pas. Mais voilà, faire d'autres formations en ostéo, ça, c'est l'objectif. Et en coaching, des nouveaux projets, ouais, normalement, un qui va sortir en septembre, du coup. Si j'arrive à le terminer d'ici là, parce que le temps passe à une vitesse folle. Ouais, projet là, et puis du coup, continuer à développer le coaching.
Est-ce qu'on a le droit à un indice?
Un indice
ouais. En avant-première.
Un mot, programmation.
Neurolinguistique. Je dis ça, c'est le premier truc qui me vient, mais programmation.
Okay. Voilà, c'est le seul indice que je donnerais. Donc, ouais, normalement en septembre, ça serait bien que j'arrive à le sortir, parce que c'était l'objectif. Mais
je devrais sortir cet épisode à la fin du mois d'août, probablement. Donc, ça sera imminent, et en plus, ça te met
exactement.
Dans le jus pour assurer la sortie du truc.
Okay.
Bon, on va terminer avec quelques petites questions rapides, les dernières pour finir. Alors, comment tu t'entraînes? Je t'ai un petit peu posé la question tout à l'heure quand même, qui était, tu as un peu de force, etc. Mais comment on n'est pas revenu là-dessus, et c'est pour ça que je veux savoir comment tu t'organises tes entraînements dans la semaine. Est-ce que tu splits? Est-ce que tu réfléchis à l'avance aux exercices? Est-ce que tu y vas à l'instinct?
Je me suis entraînée pendant très très longtemps en upper lower, donc haut du corps, bas du corps, pendant un bon bout de temps. Là, avec le confinement et le fait de ouverture de salle de sport, fermeture de salle de sport, etc., ça a été très compliqué de retrouver une routine bien précise sur mes entraînements. Donc là, ça fait Ça fait ouais bah un an et demi que c'est un peu plus compliqué de trouver une routine fixe au niveau des entraînements parce que bah du coup quand tu t'arrêtes forcément reprendre ton cycle c'est un peu plus compliqué. J'ai eu quelques blessures aussi sur ces derniers temps parce que du coup pas de salle de sport, moins de enfin fonte musculaire au niveau des quadriceps donc je me suis plus blessée aussi. Là je suis repartie sur un format qui est un petit peu différent mais qui reste globalement le même, c'est du push pull legs. Donc une séance axée poussée, une séance axée tirage et une séance axée jambes. Je fais ça, je m'entraîne 4 à 6 fois grand maximum. Je dirais 4 à 5 en général. Enfin minimum 5, on va dire 5 séances. 5 séances dans la semaine. Je fais un push-pull leg et je fais en général un upper et un lower. Globalement, c'est comme ça que je m'entraîne.
Et, un peu de cardio aussi? Ou c'est pas ta tasse de thé?
Je fais du cardio aussi, parce que je vais nager une fois par semaine. Donc je le fais, enfin je le mets sous forme de cardio la natation.
T'es du côté de la Bretagne, toi,
c'est ouais. Ça et je fais pas en eau libre, non, je fais ça à la piscine.
Ah, ok. Bon, je fais croyais abandonner que t'allais nager. Ouais, je me disais.
Non. La mer, elle a 10 degrés. Je sais pas. Pourtant, je prends des douches froides, hein, mais.
Ah, non. Tu fais ça?
Ouais, tous les matins.
Tous les matins.
Tous les okay. matins. Ok. Parce et que. En fait, ça me permet de démarrer ma journée d'une meilleure façon parce que c'est un truc que j'ai pas envie de faire et je me dis au moins si je le fais, j'ai déjà accompli quelque chose dans ma journée. Donc voilà, et je me sens plus en forme en me disant, même si on se sent apaisé après une douche froide, parce qu'on est bien, on est confortable. Après une douche chaude, on se sent bien parce qu'on se sent apaisé. Après une douche froide, on se sent plus énergique parce que du coup, ça stimule le corps. Et au final, j'ai rendu compte que je me sentais mieux après une douche froide, même si j'aime pas forcément prendre des douches froides. Mais au final, je sais que j'ai accompli quelque chose et je sais que je démarrais la journée un petit peu mieux, plus énergique. Donc,
comment tu manges?
Comment je mange le ouais. matin, le midi et le soir. le matin, okay,
j'ai pas
je
dit
mange.
Quand, j'ai dit comment. Comment avec la main droite.
Le matin, en général, je me fais un pancake ou un porridge, un truc comme ça, relativement classique. Ça me prend pas longtemps. Toujours préparé la veille parce que le matin, j'ai pas le temps. Je prépare toujours la veille pour le lendemain. Le midi, en général, j'ai pas le temps non plus, donc ça va très très vite. Et c'est le soir où je mange le plus et le plus calorique et le plus en volume, sachant que c'est en plus après mon entraînement, donc c'est là où j'ai le plus faim. Je suis quelqu'un qui a très peu d'appétit, malgré ce qu'on peut remarquer sur les réseaux sociaux. Je suis très très vite, j'ai jamais faim, quasiment jamais faim. J'ai
depuis toujours ça, ou depuis que t'avais fait ta perte de poids?
Depuis 2-3 ans, j'ai notamment regardé pour essayer d'avoir de sécréter un petit peu plus de ghrelin, donc qui est l'hormone de l'appétit, mais ça coûte très cher et c'est très compliqué, donc peut-être que je fasse des études un peu plus poussées sur le sujet, mais ouais, j'ai jamais faim, donc je mange par gourmandise et entre guillemets par nécessité, parce que je sais que si je mange pas assez, je perds du poids et je perds en performance et c'est pas ce que je veux.
Pour certains, ça serait une bénédiction hein, d'avoir ça. Hein, de,
ouais, il y en a beaucoup qui me disent j'aimerais bien, mais moi c'est... Je vais pas dire que je me force parce que c'est toujours un plaisir de manger. J'aime bien manger, mais c'est juste j'arrive à mon repas, j'ai encore le repas d'avant quoi. Et c'est pas très agréable. Quoi.
Et ta recette préférée parmi toutes celles que tu postes sur Instagram, qui sont souvent des desserts, enfin pas des desserts, mais
Ouais. Et tu sais que ça va. Je suis sûre que ça va t'étonner, mais la recette que je préfère sur mon compte Instagram, je pense que c'est le cheese naan. C'est une recette de naan au fromage qui est super facile à faire. Et ça prend littéralement 5 minutes, mais c'est un vrai délice et j'adore cette recette. Donc voilà.
Et après alors c'est marrant parce que t'as pas trop le... Attends, parce que j'adore mettre en parallèle des pseudo a priori contradictions qui en fait ne le sont pas, mais c'est parce que c'est pour aller creuser. C'est que tu ne manges pas trop, t'as pas un gros appétit, mais par contre tu t'adores, enfin tu fais énormément de recettes. Gourmande, sucrée, craquante, tout ça, tu vois. Donc, c'est tu les manges derrière, tu les manges pas, tu prends du plaisir à les faire, forcément.
Je prends du plaisir à les faire et à les manger, mais je les mange du coup en fin de journée, après ma journée de travail, après mon entraînement. Donc, c'est là où j'ai le plus faim, même si il m'arrive d'avoir faim quand même le soir, mais c'est là où j'ai le plus plaisir à manger parce que en général dans ma journée je suis stimulée de tous les côtés, j'ai pas le temps de penser à la nourriture et c'est pas un moment qui est où j'ai beaucoup le temps. Dans ma journée, vraiment, honnêtement, c'est le rush toute la journée. Donc, le midi, je me pose très peu pour manger. Donc, je mange par nécessité parce qu'il faut manger. Mais j'ai pas vraiment le temps. Donc, je prends le temps en fin de journée de me faire un truc qui me fait kiffer. Et tu vois, c'est comme si tu disais, bah, le soir, je mange avec des amis et je me fais plaisir sur un repas. C'est un petit peu le principe là.
T'as pas des épisodes de craving, le cheat meal, tout ça, t'en penses quoi?
Je suis pas fan parce que si y a des, moi je fais vraiment la guerre au cheat meal, c'est-à-dire que pour moi si tu fais un cheat meal, c'est-à-dire que tu considères des aliments comme mauvais et que tu te prives la semaine. Tu vois? Moi je suis partisan du y a aucun aliment qui est interdit, il faut pouvoir se faire plaisir quotidiennement. Si tu dis je m'interdis ça parce que telle ou telle raison, bah c'est pas sain et c'est pas la vision de la nutrition que je vois parce que le corps a besoin de tout en quantité différente selon les aliments, mais il faut pas bannir certains aliments. Et si tu ressens le besoin de faire un cheat meal, c'est que tu bannis certains aliments. Et moi, je suis vraiment contre le fait de cette pratique.
Si on adore la pizza, est-ce qu'il faut pas bannir la pizza et en manger tous les jours?
Bah, tu peux en manger tous les jours, mais t'es pas obligé de te manger la pizza. C'est une question d'équilibre. C'est ce que je dis à mes élèves, c'est que tu peux avoir envie de manger un plat de lasagne, mais t'es pas obligé de manger le plat de lasagne en entier. Tu peux te manger une part de lasagne et à côté, tu te fais une petite assiette de légumes. Et là, t'auras eu tes micronutriments avec les légumes, avec machin, et tu te seras fait plaisir parce que t'auras eu ta part de lasagne.
Quel complément tu prends alimentaire? Oui, je comprends.
Le complément alimentaire.
Juste pour taquiner.
T'es taquin. le complément alimentaire que je prends, il y en a deux. Je prends du magnésium parce que je fixe très mal le magnésium et que je me fais des crampes tout le temps sinon. Et de la créatine. C'est les deux seuls compléments que je prends.
Tu fais pas de collation d'ailleurs, c'est quelque chose que je voulais te demander parmi ta diète. Pas de collation en milieu d'après-midi.
Non, rien
et
du
donc
tout.
Pas de tu protéines vois, non plus alors.
Non, parce que bah du coup comme j'ai une digestion qui est très lente, je préfère avoir que 3 repas pour essayer de les concentrer, éviter d'avoir un apport alimentaire tout au long de la journée. Tu vois là, il est 16h10. Alors on tourne le podcast en France et je vais aller m'entraîner la suite de ce podcast là et j'aurai mangé mon repas vers midi et demi et je prendrai pas de collation avant d'aller m'entraîner. Alors que je pense la plupart des gens se seraient dit les 16h ça va être l'heure de prendre un petit casse-croûte et j'aurai de l'énergie pour l'entraînement. Moi je préfère pas m'entraîner le ventre vide, mais m'entraîner le ventre un petit peu plus léger. C'est là où je performe le plus, en tout cas.
Ok. Est-ce que tu as peur de vieillir? Question que je pose rarement, ça, mais que j'ai toujours dans mes petites notes et que je trouve toujours intéressant d'avoir le retour.
Alors, moi, pas du tout. Pas du tout, parce que pour moi, qui dit vieillir, dit aussi gagner en maturité, en apprentissage. Et pour moi, j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui sont plus âgées que moi parce que, bon, même si elles n'ont pas forcément plus de connaissances sur certains domaines, je sais qu'elles ont une plus grande richesse de vie et elles ont beaucoup plus à m'apprendre. Je peux leur apprendre des choses, mais elles ont plus vécu que moi et je trouve ça intéressant et je trouve que les échanges sont quand même plus intéressants. Donc, j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui sont plus âgées que moi. Et au contraire, quand on me dit « Quoi, t'as que 24 ans ?» Même si là, je vais sur mes 25 ans, bah, je suis contente qu'on me donne plus que mon âge parce que je me dis bah, « t'es plus mature ou tu dégages plus de respect, de confiance sur ta pratique. »
Et en parlant de ça, justement, si on pouvait revenir quelques années auparavant, peut-être pas 10 ans, parce que ça te ferait 14, qui est un petit peu jeune, mais on va dire entre 18-20, lorsque tu as quitté le lycée, que tu es rentré dans les études. Tu as fait directement ostéo, d'ailleurs, t'es pas passé pour autre chose.
Direct.
Ouais. Qu'est-ce que tu aurais besoin d'entendre, d'une manière générale, un conseil qui t'aurait fait du bien?
Un conseil qui m'aurait fait du bien, c'est... c'est le même que je me donne actuellement, c'est arrête de trop vouloir trop bien faire et contente-toi de bien faire les choses sans te prendre la tête et te stresser parce que t'as pas réussi à faire quelque chose dans ta journée. Tous les jours je me fais mes to-do list pour le lendemain pour me dire faut pas que j'oublie ça, et si je fais pas bien ça ou si par exemple je réponds trop lentement ou si je réponds pas à tout le monde, je suis pas contente, mais je me dis, Maïs, ta vie c'est pas de répondre aux DM, c'est pas d'être parfaite sur tous les points, c'est simplement de vivre ta vie et d'essayer d'être en phase avec ce que tu veux. Tu peux pas tout faire dans la vie, c'est normal. On a des journées de 24 heures, donc faut que t'apprennes à être satisfaite de ce que tu peux faire sans te mettre trop de pression sur ce que tu as à faire. Tu vois, parce que si je me dis il faut que j'aille faire ça, il faut que j'aille faire ça, et au final j'ai tellement de trucs à faire que je stresse parce que j'ai trop de trucs à faire, et tu sais, c'est un engrenage, et tu dis oh là, j'ai encore ça à faire, et au final c'est très compliqué. Donc ouais, le meilleur conseil que je pourrais me donner, enfin que je pourrais donner à ma liste de 18-20 ans, c'est prends du temps pour toi et fais juste simplement les choses qui te semblent le plus juste et bien, sans vouloir être trop perfectionniste sur ce que tu as à faire.
Un livre que tu aimerais conseiller, qui t'a marqué, que tu as envie de recommander à moi ou à tous les auditeurs?
Un livre qui m'a marqué. Si je te montrais ma bibliothèque, elle serait, enfin, elle est juste derrière moi, elle est gigantesque, ma bibliothèque.
Un livre ou plusieurs, hein, si t'as un petit best-of de choses que t'as trouvé.
Ouais. Alors, un livre en ostéopathie qui était intéressant, c'était Le corps se souvient, qui était génial. C'est un livre qui parle justement de tous les stress post-traumatiques, c'est-à-dire que, moi, j'ai eu des entorses et du coup, mon corps sait qu'il a des entorses, donc il a une appréhension sur cette zone-là, même si moi, je le conscientise pas forcément. Donc ça, c'était un livre qui était très intéressant. Là, il y a récemment un livre que je lis et qui est très intéressant. C'est un livre sur la négociation, c'est « Il ne faut pas couper la poire en deux ».
Je l'ai lu, je l'ai déjà recommandé plusieurs fois sur ce livre-là. Ouais.
Il ne faut jamais couper la poire en deux.
Ne coupez jamais la poire en deux.
Ouais, qui est génial sur les techniques de négociation. Et après,
Chris Voss, négociateur, ancien négociateur SBI, ouais.
Ouais. Et après, tout ce qui est les livres sur le système digestif, parce que je suis une passionnée du système digestif et du microbiote, et tout ce qui touche au microbiote, donc le plus classique, je dirais Le charme discret de l'intestin, mais il y a par exemple aussi à Fleur de paix, qui est génial, un autre bouquin sur le système digestif.
Fleur de?
À fleur de paix, un paix comme un paix.
Ah oui, d'accord. Ah bah tiens, c'est original.
Ouais, tout ce qui est touche au microbiote, je trouve ça vraiment génial et passionnant.
Ouais, t'as l'air d'être assez intéressé par ça.
Ouais, comme ça évolue constamment. En plus, il y a toujours de nouvelles études, de nouvelles recherches par rapport à ça. C'est toujours passionnant. Vraiment, le microbiote, c'est quelque chose qui me fascine. Et même dans mes coachings, j'essaie de le mettre en place parce qu'il y a beaucoup, de plus en plus même, de personnes qui ont des soucis au niveau digestif, donc intéressant.
Ok, bon, ben, je pense que c'est pas mal, on a fait le tour. Où c'est qu'on te retrouve, Maëly, sur les réseaux, si on veut, déjà, juste peut-être ce que tu proposes en public, et ensuite si on veut aller un peu plus loin avec toi sur le.
Je propose en public, on peut me retrouver déjà sur mon compte Instagram, c'est Maëly-LFE. Vous pouvez me retrouver un petit peu sur YouTube, je suis pas ultra constante sur la.
J'ai vu que tu faisais des vlogs, hein.
C'est ça. J'essaye de. En gros, c'est un autre format. C'est comme Instagram, mais je montre un petit peu plus mes routines. Je montre des recettes, je montre des vlogs, je montre des challenges. J'aime bien faire ce format. Ça prend plus de temps, mais j'aime bien ce format. Et je suis une passionnée d'audiovisuel, donc c'est un format qui me plaît beaucoup. Vous pouvez me retrouver du coup Instagram et YouTube, c'est les deux plateformes sur lesquelles je suis la plus active. Après, j'ai mon site internet. C'est pareil, c'est Maëly-du-bas. EATS. C'est les trois grosses zones. Après, vous pouvez me contacter via mon site internet, par mon mail ou sur mon compte Instagram directement.
Ok. On mentionne aussi ton cabinet, peut-être l'adresse ou quoi, ou tu préfères pas. Tu m'as dit que tu voulais rester des. Enfin, tu voulais.
Ah, peu importe. Si il veut.
Donner une distinction, mais s'il y a des gens dans le coin, parce que toi, t'es sur Rennes, c'est ça?
C'est ça. Je suis juste à côté de Rennes. C'est la ville s'appelle Pacé, P-A-C-E. Donc c'est dans un pôle médical, à 10 minutes de Rennes, à l'ouest de Rennes. Les gens connaîtront, ceux qui sont sur le bassin rennais, c'est une grosse ville quand même.
Ok. Voilà. Comme ça, s'il y en a qui sont du coin, qui veulent te consulter, qui se sont reconnus dans ton approche, pourquoi pas. Et puis de toute façon, on laissera les liens de ton Instagram, YouTube, site web.
En description,
dans les notes de l'épisode. Est-ce qu'il y a une dernière chose que t'aimerais dire, un message que tu voudrais faire passer?
Le seul message que je voulais te passer, même faire passer à tout le monde, c'est merci beaucoup de de faire passer des podcasts comme ça, de faire intervenir pas mal de monde de plein de milieux différents, parce que je trouve que c'est ultra enrichissant. Et c'est ce que je te disais juste avant, c'est que ça permet de s'enrichir sur différents points. Moi, j'apprends toujours des choses au travers de tes podcasts, et je pense que aujourd'hui, que ce soit avec moi ou avec d'autres personnes ont pu apprendre des choses et avoir des avis différents, tu vois, tout comme l'ostéopathie, comme sur la vision de la femme dans la société. Je trouve que l'échange est important et l'ouverture d'esprit est importante, et de plus en plus de nos jours. Donc c'est des débats qui sont très intéressants et qui permettent d'apprendre et de s'enrichir de jour en jour. Donc, juste un grand merci à toi de m'avoir invité sur ce podcast et puis de faire vivre cet apprentissage à tous.
C'était un plaisir. J'essaie de, c'est très égoïste ces podcasts, puisque ça me permet moi d'avoir des discussions. Donc je suis le premier impacté, puisque c'est moi-même qui ai les discussions. J'ai la chance de converser avec des gens, comme tu dis, de plusieurs types de milieux. Voilà, c'est assez varié. Certains connus, d'autres moins. C'est pas le problème. Bon, des fois j'ai la chance évidemment de faire des podcasts avec des gens qui sont plutôt connus, donc c'est plutôt cool. Enfin, c'est cool. Des gens qui sont pas forcément facilement accessibles. Donc le podcast me permet ça, c'est hyper égoïste. Au-delà de ça, tant mieux si ça plaît à tout le monde, parce que c'est quand même le but, hein. Si je les mets en ligne, c'est pour qu'ils soient écoutés, c'est pour qu'ils soient vus, c'est pas uniquement pour ma poire. Et puis le podcast, je pense que je vois ça comme le point de départ de quelque chose. C'est que je n'apporte pas des solutions toutes prêtes, parce que ça n'existe pas, les solutions toutes prêtes. Des fois, je pose des questions un petit peu, comment tu t'entraînes, comment tu manges, etc. Et puis, qui sont beaucoup plus concrètes. Mais sinon, ce sont des, j'amène les gens à venir écouter une discussion, à découvrir certaines choses qu'ils ne connaissent pas, à peut-être voir les choses différemment et planter des graines pour qu'ils aillent peut-être faire des recherches plus tard. Voilà pourquoi je demande des bouquins aussi à la fin. C'est parce que ça permet de continuer le travail. Derrière, il y a un podcast qui dure d'un peu plus de 2 heures là. Et puis, on apprend des trucs, on a découvert un parcours, et puis on se dit, tiens, voyons, je vais aller regarder. Et puis, tiens, elle a conseillé ce livre, je vais lire ce livre. Et voilà, donc on est dans l'apprentissage, on est dans le partage. C'est comme tu l'as décrit, dans un sens, c'est ce que j'essaie de transmettre. Mais avant tout, c'est mon plaisir personnel. C'est vrai.
Mais il faut.
Et là, il faut bien passer par là.
C'est important. Ouais.
Et d'ailleurs, les podcasts, souvent les podcasts dont j'ai pas été hyper pressé d'enregistrer, ce sont pas forcément les meilleurs qui rendent, tu vois. Des fois, quand je me sens obligé d'enregistrer un podcast, ça se passe pas comme je veux.
Ouais.
Et le premier truc, c'est, il me tarde d'enregistrer ce podcast parce que ça va être cool, je vais passer un bon moment. Et,
ouais.
Et si c'est réciproque pour la personne qui a été invitée, c'est encore mieux. Et puis, si c'est la même chose pour tous ceux qui écoutent, dans ce cas-là, la mission est accomplie. Voilà.
Ouais.
Bon, merci Maïlys pour être passé.
C'est moi qui te remercie.
merci
plaisir
à tous. Hein. Si vous avez aimé cette discussion, c'est le moment de rétribuer le podcast d'un pouce, d'un like.
De plein de likes, le partager.
Partager, voilà. Écoutez là, vas-y. Si tu veux faire les appels à l'action, vas-y, je t'en prie.
Ils vont
peut-être plus t'écouter que moi.
Même moi qui suis sur les réseaux et qui sais du coup comment est-ce que se passe le feedback, c'est vraiment très important. Et je pense que si vous voulez soutenir le travail de Jérôme, la meilleure façon de le remercier et de faire qu'il puisse ensuite par la suite avoir de personnes Thibaut InShape, tu vois. Si les gens like et qui font que ton podcast sera de plus en plus visible, c'est la meilleure façon de le remercier, c'est vraiment de le liker et de partager ce podcast, parce que c'est le seul moyen d'avoir un feedback. C'est comme en consultation, le seul moyen de savoir si le patient va mieux, c'est de pas le revoir. Donc, c'est le seul moyen, tout simplement. Si ça vous a plu, ça prend 30 secondes, même pas, ça prend 2 secondes et ça lui fera grandement plaisir.
Voilà, bon, je vais t'engager en marketing, je pense que tout est bon. C'est ça, qu'est-ce que je dis d'habitude, c'est abonnez-vous au podcast ou à la chaîne ou peu importe, comme ça vous recevez les notifications et tous les épisodes, commentez et laissez-moi des évaluations sur n'importe quelle application de podcast. Ça, c'est des trucs concrets. Apple Podcast, c'est toujours le mieux parce que c'est là où il y a le plus de gens qui écoutent et que je remonte dans les rangs. Et puis voilà, inscrivez-vous à la lettre biomécanique aussi. J'ai envoyé, après on enregistre cet épisode, on est début août. J'ai pas mal d'avance et puis j'essaie d'organiser les épisodes, mais la dernière lettre newsletter qui est partie, c'était il y a quelques jours. De quoi j'ai parlé, c'était j'oublie à chaque fois de quoi je parle. Oui, non, j'ai parlé de la hernie discale. Ouais, j'ai fait un petit point sur la hernie discale, donné quelques conseils et puis expliqué comment ça se passait. Voilà, et puis quelques news aussi. Des fois, je suis invité sur d'autres podcasts et souvent, j'en parle dans les newsletters pour ceux qui veulent m'entendre parler de trucs différents. Et puis, ça permet aussi de faire découvrir d'autres podcasts, souvent dans le milieu du sport ou un peu de développement personnel. Voilà, toutes les raisons pour lesquelles c'est intéressant de cliquer sur le premier lien, biomecaniquepodcast.com/lettre. Comme ça, vous me donnez votre email, vous faites partie de mes contacts privés et vous recevez la newsletter avec des fois des petites surprises. Je crois que j'ai tout dit. Merci. On se retrouve la semaine prochaine ou peu importe quand. Si vous enchaînez tous les épisodes, vous découvrez le podcast. Allez-y, faites-vous le marathon et puis faites-moi vos retours en privé ou en note. Merci. À bientôt. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout. Vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux. Merci également de lui mettre une note de 5 étoiles avec un petit commentaire sympa. C'est ce qui me permet de mieux ressortir dans les classements. Laissez-moi votre email sur biomecaniquepodcast.com/lettre et je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que la lettre biomécanique une fois par mois où je vous partage mes meilleurs conseils et recommandations. Vous avez écouté le podcast Biomécanique. Je suis Jérôme Cazerol et je vous dis à très bientôt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.